elbacking.net, le podcast. Actualité, débat, auteur, série. L'émission du site de référence de la fantasy francophone.
Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce 90e numéro du podcast elbacking.net. Et on va parler, comme le titre l'indique, des séries de l'automne, 2022, parce qu'elles ont retenu notre attention, on imagine, tout autant que la vôtre, à savoir qu'on va accorder un long moment à The Rings of Power, donc la série du Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime, mais également de House of the Dragon, hein, donc le prequel à Game of Thrones, et également notre série qui a été un petit peu la série chouchou et dont on a un peu moins parlé, mais quand même, à savoir Sandman de Netflix. Voilà, donc ça va être les trois séries qu'on va aborder autour de cette table ensemble. Et je n'ai pas présenté nos invités, mais nous avons toujours le plaisir d'avoir Safrone avec nous.
Bonsoir tout le monde.
Nous avons également ce cher Foradan.
Bonsoir à tous.
Qui sera notre défenseur Tolkien et pourfendeur ou pas, hein, de la série du Seigneur des Anneaux. À voir. Nous ne vous divulgâcherons pas ce plaisir en introduction. Et nous avons également le sémillant et toujours présent Gilles Hossen.
Oui, pour l'instant, bonjour, bonsoir à toutes et tous.
Voilà, et je suis Geeks pour vous servir. Donc, nous sommes quatre pour discuter de ces trois séries. Juste pour vous prévenir, donc on va spoiler forcément ces séries. Donc, pour celles et ceux qui voudraient quand même nous écouter parler, on va essayer de préciser autant que faire se peut à certains moments les passages où on spoilera. Voilà, mais éventuellement, on peut toujours faire des petites erreurs. Donc voilà, donc vous êtes prévenus. Juste avant, un petit laïus, si vous souhaitez soutenir elbacking.net, si vous voulez nous aider à maintenir la lumière allumée, vous pouvez le faire de deux manières. Soit vous nous faites un don sur la plateforme Hello Asso, dont vous pouvez retrouver le lien sur la page d'accueil du site internet elbacking.net, soit vous voulez quand même nous soutenir, et ben vous pouvez le faire d'une autre manière, simplement en nous mettant 5 étoiles, soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify, soit sur un autre outil d'écoute de podcast que je n'aurais pas cité, mais sur lesquels vous nous trouverez. Donc voilà, ça nous aide énormément pour le référencement. Et voilà, donc vous pouvez nous mettre 5 étoiles, vous pouvez nous mettre également un petit commentaire, nous dire qu'est-ce que vous appréciez dans ce podcast, et ça nous fait toujours vraiment chaud au cœur, et ça nous aide à continuer à maintenir ce podcast encore et toujours depuis 12 ans maintenant. Et on peut lancer la discussion, donc nos séries fantasy du moment. On sait qu'on est déjà bien avancé dans l'année, hein, 2022, donc il y a déjà eu d'autres séries qui sont sorties, mais aucune n'a retenu autant notre attention que ces mastodontes, vraiment, et le mot est faible, parce qu'elles étaient vraiment attendues à House of the Dragon, Rings of Power, et d'ailleurs, on va commencer par, alors je regarde un petit peu mon plan, on va commencer par House of the Dragon, qui était annoncé depuis au moins 3 ans facilement et qui avait généré quand même une certaine attente, voire pas en fait. Ça a quand même pas mal divisé cette annonce, hein, corrigez-moi si je me trompe, mais entre les fans qui étaient très déçus de la fin de la série principale, qui effectivement donc avait ses détracteurs, et ces gens qui l'ont défendu, à savoir moi, qui fait probablement partie des deux Français à l'avoir défendu. même si effectivement, avec un peu de recul, j'aurais un avis peut-être un peu plus nuancé, mais je continuerai à la défendre cette saison 8. Et donc on avait effectivement quand même une certaine attente, à savoir qu'est-ce qui allait bien pouvoir ressortir de cette nouvelle série, de cette nouvelle mouture, sachant que le gros avantage qu'a HBO avec ça, c'est qu'ils avaient beaucoup de matière avec George Martin, forcément, parce que George Martin a beaucoup beaucoup développé son lore, son background. Le background de Westeros est extrêmement fourni, et notamment tout ce qui concerne l'histoire des Targaryens. Il y a plus de 300 ans d'histoire. Et donc, House of the Dragon se concentre sur un épisode parmi d'autres, mais en tout cas un épisode très, comment dire, j'allais dire fameux, c'est pas là où un épisode où il se passe beaucoup de choses,
charnière
de la famille Targaryen. Ça a été diffusé sur HBO à partir de début septembre. Ça vient de s'achever.
Fin août.
exactement, fin août. Ça vient de s'achever à l'heure où on enregistre ce podcast, donc fin octobre, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, qu'est-ce qu'on a pensé de cette série ? Allons-y.
Moi, je veux bien commencer.
Ah, vas-y, j'ai le thème.
Non, mais c'était une très bonne saison pour régler le contraste de son écran de télévision. Je fais allusion au fait
qu'elle a...
Non, bah là aussi, oui, il y a eu quelques épisodes où les fans, les spectateurs se sont plaints de oh là là, c'est très sombre. Plus globalement, je pense, même si là aussi, il y a toujours des gens pour. Moi, j'ai même vu certains avis sur différents forums. Bon, il y a toujours des gens pour ne pas aimer, même ce que la majorité écrasante apprécie. Là, ça a été aussi le cas, même pour une telle série. Mais je pense que la plupart des gens, à mon image, ont apprécié cette première saison parce que on retrouve un peu ce qui a fait le charme ou l'intérêt des premières saisons, là aussi, de Game of Thrones, à savoir peut-être quelque chose qui mise moins sur le spectaculaire. Et il y a toujours, bien sûr, des rebondissements, des retournements de situation. Mais c'est une série quand même très écrite, je trouve, qui mise beaucoup quand même sur ses dialogues. Et sur les duels verbaux hein, entre personnages. Et même s'il y a quelques séquences très spectaculaires, pour l'instant, en tout cas dans cette première saison, parce que les showrunners ont précisé que la saison 2 devrait passer la vitesse supérieure niveau action, justement, et grand spectacle, et aussi humour. Bon, là, j'attends de voir, je ne suis pas sûr que ce soit ce que j'attends le plus, mais de cet univers-là. Mais en tout cas, oui... Pour moi, ça a été quand même une très bonne surprise parce que effectivement, moi, je faisais partie des déçus de la fin de Game of Thrones où je crois que même déjà la saison 7, voire 6, ça partait quand même un peu en vrille dès qu'ils ont plus, en fait, de vraie matière sur laquelle, plus de romans sur lesquels se baser, pardon. Là, effectivement, avec Feu et Sang, même si les dialogues, voilà, ils sont pas forcément tels quels, c'est plus une chronique à la base, Feu et Sang, forcément, tu as un vrai support écrit sur lequel te baser pour découper tes épisodes, tes grands arcs, même s'ils ont fait des changements hein, sur certains points. Mais tu as une base quand même beaucoup plus solide, je trouve. Après, ça n'empêche pas que tu peux avoir une base très solide et te planter dans l'exécution. On pourra y revenir. Mais du côté de House of the Dragon, moi, je trouve que ça a été plutôt une franche réussite. Pour, en tout cas, une première saison très solide. À défaut de moi m'avoir... peut-être carrément, je sais pas, emballé ou émerveillé, mais en tout cas, j'ai trouvé ça ouais, très solide.
Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec toi, Gio, parce que c'est normal, effectivement. j'ai été, ouais, comme toi, vraiment hyper emballé par ça. Avec 3 ans de recul sur la fin de Game of Thrones, en fait, ce qui me marque en fait en revoyant House of the Dragon, je comprends mieux ce qui faisait l'attrait de Game of Thrones et qui s'est progressivement délité avec les dernières saisons de Game of Thrones justement. C'est la transformation progressive, si tu veux, des personnages qui étaient des protagonistes en fait et qui sont devenus des héros, tout simplement. Donc à partir de là, en fait, si tu veux, sur la fin de Game of Thrones, on avait les gentils, on avait les méchants. Cersei, elle était vraiment très très méchante. Elle buvait du vin comme une méchante, elle regardait par la fenêtre comme une méchante. Et on peut revoir la saison 8 et effectivement, elle boit du vin en regardant par la fenêtre, en se demandant pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu ses goddamn éléphants pendant que Daenerys à côté, elle avait ses dragons.
Donc, c'est approximativement tout ce qu'elle fait de toute la dernière saison de Game of Thrones, d'ailleurs.
Hein, et c'est même pas approximatif, c'est ça. C'est ça. Jusqu'à... Alors, on précise qu'on spoil évidemment, bien évidemment, la fin de Game of Thrones, hein, malheureusement. Donc, il y avait ce souci. Et en fait, dans Feu et Sang, et qu'on retrouve dans House of the Dragon, on a à nouveau cette distribution de personnages en tant que protagonistes. C'est-à-dire que tout le monde, pratiquement, est en niveau de gris, de noir ou blanc. Tu vas avoir tu vas forcément avoir tes préférences. Tu vas forcément avoir des personnages qui vont t'évoquer d'autres personnages de la série. Tu vois, par exemple, tu as une espèce de Littlefinger tu vas retrouver un petit peu ces trucs-là. Forcément, comment elle s'appelle, l'héroïne Rhaenyra va t'évoquer Daenerys, c'est normal. Voilà. Mais hormis ça, ils ont quand même toutes et tous leur personnalité marquée. Et ce qui est réussi, c'est que tu peux te mettre à la place de chacune et chacun d'entre eux et comprendre leur point de vue, leurs intérêts. Peut-être à part Otto Hightower qui, pour le coup, ferait un peu plus le méchant, donc la main du roi, qui lui, bon, c'est pas vraiment un spoiler parce que tu le sais dès le départ, est vraiment celui qui est vraiment assez dévoré d'ambition et qui est prêt à tout pour mettre sa maison en avant, alors qu'il n'en a pas forcément énormément besoin. Plus que ça. Je vois Foradan en pleine réflexion, les yeux dans le vague.
On dit Tywin Lannister qui faisait pareil.
Oui, effectivement, ouais. Ah ouais, c'est vrai, effectivement. Tu as raison.
Et les deux ont fait en sorte que leur fille a épousé le roi.
Oui.
Pour devenir la reine, la mère des enfants. Oui. Je suis en train de me dire qu'il y a plusieurs points communs.
Ah non, mais on va retrouver énormément de points communs. Et c'est ça, en fait, qui fait que il y a eu, pour moi, l'une des grandes forces de House of the Dragon, c'est d'aller récupérer l'essence même de Game of Thrones, en fait, et de la retrouver. Et ce que j'ai trouvé encore plus fort, c'est qu'ils sont allés rechercher cette essence et qu'ils ont pris toutes les critiques. Alors, je parle des critiques recevables, bien entendu. Ils ont pris toutes les critiques recevables. Et tu as vraiment cette impression, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, ils les ont appliquées dans la série. Donc, vraiment, en termes de tout ce qui avait trait à la sexualité et abordé vraiment d'une toute autre manière dans House of the Dragon, il y a quasiment pratiquement qu'un seul épisode hein, où c'est le cas. Et c'est fait, je trouve, de manière extrêmement intelligente et vraiment avec un vrai respect des personnages, avec une vraie logique également. Enfin, il y a vraiment, on est sur des scènes d'érotisme, de sexualité qui servent à faire avancer les storylines des personnages en question. Et c'est ça, et pour moi, c'est là où on voit en fait qu'une bonne scène de sexe, qui différencie une bonne scène de sexe d'une mauvaise scène de sexe, pour pas refaire le sketch des chasseurs, des inconnus, c'est ce qui va permettre en fait, tu vas pouvoir faire le distinguo entre la scène d'après et la scène d'avant.
Oui, bah c'est sûr que c'est pas Littlefinger qui raconte ses plans avec des prostituées en arrière-plan.
Exactement. Voilà. Donc ça, clairement, si vous nous écoutez, vous hésitez hein, à regarder House of Dragons, sachez qu'il n'y a pas, on retrouve pas ce genre de sexualité gratuite. Enfin, c'est même pas ça en fait. C'est même pas le bon terme. On est sur quelque chose de complètement différent. Ça a été complètement transformé. Il l'avait dit de toute façon. Les showrunners l'avaient dit qu'ils ne voulaient pas refaire ça. Et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est quand même vraiment réussi.
Oui, puis si je pense, il y a aussi, à mon avis, la pression qui fait que on n'est plus en 2011 et à mon avis, leurs oreilles auraient sifflé s'ils avaient fait exactement la même chose. Et aussi, à mon avis, une évolution vis-à-vis de la réception publique, comme Foradan va peut-être le signaler.
Oui, Foradan.
Précisons quand même que ce n'est pas une œuvre grand public, parce que si ils ont travaillé sur certains aspects, en termes de violence et de sang, il y en a beaucoup.
Ah oui, il y en a. Ah oui, bien sûr. Alors oui.
Rien que pour ne pas aller que c'est une scène qui est décrite dès l'épisode 1. Les femmes qui sont en train d'accoucher, c'est d'une violence brutale.
Ah oui.
Je lisais la newsletter de Victoria Schwab ce matin qui disait qu'elle avait adoré la première saison de House of the Dragon. Mais est-ce que on était vraiment obligé d'avoir autant de scènes d'accouchement? En fait, voilà, c'est
vrai qu'il y en a beaucoup.
T'en as
trois, non?
Trois.
Au moins trois.
Plus,
voilà. plus c'est les gens qui en meurent de l'accouchement.
Voilà, la suggestion, c'était était-ce vraiment obligé d'avoir autant de. Alors, je précise, alors qu'on n'est pas encore trop avancé dans le podcast, que je vais être la voix qui n'a vu aucune des trois séries en question. Tout ce que j'en sais, c'est des choses que j'ai entendues, que j'ai lues, etc. Donc, je n'ai absolument pas vu ce qui se passe. Mais voilà, donc dans la newsletter de Victoria Schwab qui a été envoyée ce matin, elle disait en gros que la série était formidable, mais que peut-être quelques scènes d'accouchement en moins, ça n'aurait pas été du luxe. Voilà.
Bah, disons que les Targaryens, enfin l'histoire des Targaryens, c'est une histoire qui est quand même assez dense et donc qui dit densité dit que tu as besoin de beaucoup de personnages. Donc pour avoir beaucoup de personnages, il faut les faire naître.
Voilà, c'est sûr. Vu comme
et
ça.
On les voit tous naître.
Mais était-on vraiment obligé de les voir naître ? Voilà, là était la question de Victoria Schwab, manifestement.
Non, mais c'est vrai que Rhaenyra Targaryen a elle-même pas mal d'enfants. Je crois que du côté de chez sa rivale, donc Alicent Hightower, il y en a également 3 ou 4, je crois. Donc, ouais, ça fait... T'as quand même pas mal d'enfants qui, eux, sont aussi, enfin, ont aussi leur part d'histoire à des degrés divers dans dans cette tapisserie. Donc, oui. Mais effectivement, oui, t'as quand même pas mal d'accouchements et t'as aussi, oui, des fausses couches. Donc, t'as un petit peu, t'as un petit peu tout ça, ouais.
Oui, bah, j'avais finalement, après avoir entendu, alors à la base, mon idée c'était, je ne suis pas intéressée par cette série parce que ça a l'air d'être un total dérivatif de Game of Thrones et merci, ça va, j'ai autre chose à faire de mon temps. Vu les critiques extrêmement positives que j'avais entendues, je me suis dit peut-être que je vais y consacrer 8-10 heures de ma vie, je ne sais pas. Enfin là, vous ne me donnez pas envie quand même.
Bah, écoute, en tout cas, moi je peux te dire que mon frère, lui, c'est sa série de l'année. Et pourquoi je parle de lui ? Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout un lecteur. Pas du tout. Et c'est la première fois qu'il me dit, il me l'a dit la semaine dernière, il me dit, tu sais, j'ai tellement, tellement adoré que je me demande si je ne vais pas me commander le bouquin.
Bien.
Et j'ai jamais...
C'est... Si ça peut faire ça, effectivement, comme motivation, c'est extrêmement positif. Après, de la part de quelqu'un qui est absolument horrifié par la moindre scène d'accouchement qui existe, c'est ce que vous me racontez, c'est absolument pas motivant, quoi. C'est...
Après... T'as pas que ça non plus. Hein,
non, je me doute pas. J'espère en tout cas. Sinon, c'est un épisode qui était une fois la vie à ce niveau-là.
Oui.
C'est pas très intéressant.
Et, moi, j'allais te dire que, tu vois, autant Victoria Schwab, comme tu le dis, a l'air d'avoir aimé le premier. Moi, j'ai moins aimé quand même le premier épisode parce que je trouvais que.
Non, la première saison, elle voulait.
Ah non, la première saison, elle parlait vraiment de la saison en fait.
Ah, la première saison, pardon.
Voilà, House of the Dragon, ça lui a vraiment plu. Mais elle se demandait s'il était vraiment utile d'avoir autant de scènes d'accouchement pendant toute la saison, quoi.
Ah non, moi j'allais te
revenir. En l'occurrence, j'ai envie de dire que comme ça se joue sur les générations, les héritiers, qui va accéder au trône, c'est quand même dans le contexte.
C'est ce qu'on a dit.
Oui, certes, mais bon.
Et il en reste, parce qu'il y a encore 3 saisons.
Non, il y a encore 3 saisons,
c'est jamais.
Ouais. ça fait un paquet de personnages, hein. Ça c'est.
Oui. Non, en tout cas, un autre point que je voulais aussi soulever, c'est que même si la série n'a pas forcément un budget, enfin, c'est un budget très confortable, hein, ça se voit quand même à l'écran, ça fait vraiment pas cheap, c'est pas, je sais pas, la roue du temps. Mais.
Tu avais dit qu'on n'en parlait pas.
Oh, on peut comparer.
Non, mais.
Ah bah, bon. C'est mieux que la roue du temps.
Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai été aussi agréablement surpris dans le sens où c'est pas non plus, bah c'est ce qu'on disait, c'est pas une surenchère d'effets, etc. Et en même temps, ce qu'on voit à l'écran est plutôt très propre, sauf les accouchements. Mais du coup, je trouvais ça pas mal que la série ait pas joué la surenchère face justement à son concurrent d'en face au budget encore nettement supérieur.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, et ça, c'est un argument pour
encore
toi.
Encore une fois.
On sent que HBO a de l'argent. C'est sans commune mesure. Si tu revois la saison 1 de Game of Thrones avec House of the Dragon, tu sens qu'il y a un bond. Tu vois, quand tu vois le tournoi de l'épisode 1 de Game of Thrones avec le tournoi de l'épisode 1 de House of the Dragon, c'est pas le même tournoi qui se déroule. Il y a un peu plus de gens, il y a un peu plus de matière. Mais ce que je voulais te dire, c'est que HBO sait dépenser son argent intelligemment. C'est-à-dire que les costumes sont incroyables.
Ouais, vraiment. C'est pas tout dépensé dans les effets spéciaux.
Les costumes, vraiment. Et pourtant, je pense que... Je ne sais pas si tu m'as déjà entendu parler de qualité de costumes, de vêtements ou quoi. C'est généralement le dernier de mes soucis. Mais là... Vraiment, je regardais ça avec madame et je lui disais, regarde la cape, regarde-moi son bon, j'ai pas les mots pour le décrire,
son
plastron, enfin toutes les robes, etc. C'est juste la qualité des détails, des finitions. Tu sens vraiment cette patte HBO qui est, on va en reparler quand on va parler de Rings of Power, mais qui n'est pas encore, tu sens une certaine maturité, c'est là où tu sens la maturité de HBO et la compréhension de ce que vont être les choses importantes et où mettre l'argent pour que la série renvoie cet effet de qualité sans pour autant qu'on se dise ils ont tout mis dans les effets spéciaux. Parce qu'effectivement, comme dirait Gillot, les effets spéciaux, alors il y en a pour les dragons, il y a des très beaux dragons et vraiment, c'est... Ah, quelque chose à dire sur les dragons.
Objection, ils ont fait la continuité, mais ce ne sont pas des dragons, ce sont des wyverns.
J'en étais sûr.
Faradan, pour le commun des mortels, c'est un gros lézard avec des ailes, c'est un dragon.
Exactement.
Oui, mais il faut les gens.
L'avantage, en plus, ce qui est super cool, c'est qu'ils ont toutes et tous les dragons qu'on voit, vraiment des formes, des tronches différentes et tout. Le dragon de
Daemon. Pas autant que dans. Je cherchais. Non, enfin, oui, ils sont assez différents, mais c'est pas non plus.
Ah oui, on peut les reconnaître.
Oui, oui.
Ils sont pas dans l'obscurité totale comme certains.
Oui, c'est ça, voilà.
Ils ont des détails pour les reconnaître en taille, en couleur, en type d'écaille.
Bon, vous me faites penser quand même à un petit point négatif, c'est tout ce qui va être, sur le coup, on espère que ça s'améliorera pour les saisons à venir, mais c'est le filming sur les scènes à d'autres dragons. Pour le coup, là, on n'est pas vraiment, comment dire, c'est pas filmé à la Fast and Furious, mais...
Ah, mais c'est compliqué de filmer à d'autres dragons. Hein, donc je
Attends, la vitesse, tu te rends pas compte, toi.
Ah ouais.
Non, mais franchement, qu'ils aient eu du mal quand même.
C'est là où effectivement tu te dis genre c'est quand même bon.
C'est comme quand tu vas filmer un Balrog, tu vas faire attention aux flammes, etc.
Ouais,
c'est dangereux quoi, c'est le matériel.
C'est chaud.
Je ne sais pas si ça vous rappelle la fameuse anecdote de Alfonso Cuarón qui sort son film Gravity et puis il y a un journaliste qui lui dit mais c'était pas trop dur de filmer dans l'espace. Voilà.
Ah oui, mais c'était mignon, c'est bon.
Il est chaud.
C'était chouette. Et un point positif aussi, c'est pour les gens qui souvent vont avoir peur de commencer ce type de série en se disant mais l'histoire est trop dense, c'est trop complexe, je vais rien comprendre. Je l'ai regardé avec madame qui souvent va me dire ah, mais je suis perdu, qui est très pragmatique et donc a besoin de comprendre tout de suite les choses. Et en fait, avec House of the Dragon, c'est une histoire complexe, mais c'est raconté de manière simple. Pas simpliste, simple. C'est-à-dire que tu comprends...
Directement,
tu comprends les enjeux, tu sais qui sont les personnages importants et au fur et à mesure, on t'en présente d'autres avec les interactions, etc. Et tu n'es jamais paumé, en fait. Et ça, c'est un énorme point fort.
Oui, ça s'appelle des showrunners qui ont écrit correctement leur histoire, quoi. No comment.
Après, t'as aussi... j'ai quand même vu des gens se plaindre du saut temporel.
Alors, et du
changement d'actrice, etc., ou d'acteur.
Forcément, mais bon, en même temps, t'es obligé de changer.
Ah, mais moi, je suis d'accord. Hein.
Et franchement, autant Millie Alcock que je n'ai plus le nom de l'autre actrice, que Emma Darcy en tant qu'actrice qui incarne Rhaenyra jeune et trentenaire. Même si trentenaire, c'est jeune. Voilà.
Mais ça va, oui.
Donc, qui incarne Rhaenyra adolescente et Rhaenyra adulte. Je trouve que les deux sont excellentes, vraiment, chacune dans leur style. Pareil pour les deux actrices qui incarnent Alicent. Après, effectivement, c'est vrai que tu vas avoir des acteurs qui restent les mêmes. Donc autant ça a de autant si tu veux sur un personnage comme le roi Targaryen, comme Viserys, ça se justifie parce que tout au long de la série le principe c'est tu constates en fait sa dégradation, sa déchéance physique, donc tu le vois vieillir et pas très très bien vieillir,
tomber en morceaux littéralement.
Mais c'est vraiment très très bien fait. Ça culmine même à un moment avec une superbe scène. Je pense que pour celles et ceux qui l'ont vu, vous avez la référence. Je pense que c'est vraiment peut-être la plus belle scène qui a été faite toutes les séries de l'année. Mais ouais, il me semblait avoir vu passer ce type de critique, mais pour le coup, je ne les trouve pas forcément très, hyper justifiées, quoi.
Bah, disons que si tu as du mal à suivre parce que tu as quelques changements d'interprète, bon, ça me paraît enfin un moment, faut pas faire son repassage en même temps que tu regardes un épisode, je sais pas, mais ça me paraît pas trop compliqué à suivre quand même. Comme tu disais, pour moi, le déroulement est limpide, la progression est pareil. Enfin, il y a rien de très compliqué à suivre, hein, même si évidemment ça se repose beaucoup sur les intrigues, machin est allié à telle personne, etc., etc. Mais bon, ça va de pair avec ce type d'histoire. Hein, je veux dire, hein. Tu sais à quoi t'attendre quand tu retrouves l'univers de Martine.
Et puis la série sait très bien, en fait, avec simplement quelques marqueurs très simples, te dire qui est quel personnage et qu'est-ce qu'il fait, sans que ça paraisse trop simpliste, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Typiquement, les enfants d'Alicent, tu sais très bien que le premier, c'est le Nigo, et encore le terme, oula, ça fait vraiment, je me voilà repassé dans les années 80. Le Nigo, si on a un autre terme, c'est mieux. Bon, tu sais que c'est vraiment le bonnet complet. Le deuxième, c'est vraiment celui dont il faut se méfier, qui est vraiment, t'as pas envie de l'avoir trop proche de toi. Et en fait, avec simplement quelques petits détails, quelques petites scènes, de parfois des plans de simplement un plan de caméra, et tu arrives en fait à très très bien comprendre et discerner quel est ce personnage, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut, et très rapide, et c'est ça qui est très fort.
Quitte à parler des costumes, précision pour ceux qui connaissent l'histoire, il y a quand même deux clans qui se dégagent. Les clans sont généralement appelés par une couleur dominante, noir et vert, suivant le candidat ou la candidate pour le trône, et ça se voit dans les costumes, puisqu'à la base, c'est la couleur que porte l'une ou l'autre à un événement particulier.
Oui.
La robe noire, la robe verte, le clan des verts, le clan des noirs.
Exactement, et ça, c'est vraiment extrêmement bien montré. Mais il y a énormément, en fait, de jeux comme ça qui sont, en fait, plein de show don't tell, le fameux, qui autant qui jouent avec les costumes, mais qui vont jouer avec simplement la construction scénaristique d'un seul épisode. Je pense notamment à l'épisode 9 et 10, qui vont se concentrer sur une seule zone, un seul endroit, et donc un seul des parties, en fait, avec les mêmes conséquences. En fait, il y a une conséquence, et on explore ce qui se passe du côté des verts et ce qui se passe du côté des noirs. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a une vraie tension, parce que tu te demandes, en fait, pendant que tu vois ce que font les verts, quelle va être la réaction de l'autre camp. Et ça, c'est vraiment très, très bien, très, très bien monté. Il y a vraiment, je trouve vraiment que cette série a une très, très grande subtilité avec tout ce qu'elle arrive en fait à faire. Vraiment, je ne comprends absolument pas les critiques que j'ai pu lire à droite à gauche sur le qui sont hyper négatives par rapport à la série. Je pense que c'est il y a vraiment énormément de qualité artistique vraiment à tout point de vue là-dedans, quoi. Oui, Safran.
Moi, je voulais rebondir sur les costumes. Oui, je sais que c'est un détail sur une série qui compte quand même beaucoup d'aspects, etc. Mais ça fait partie des trucs qui, je l'avoue, m'avaient énormément rebuté quand j'avais vu les premières photos qui étaient parues dans la presse, etc. C'est que j'avais l'impression que les costumes, c'est quand même une série qui est censée se passer plusieurs siècles avant Game of Thrones. Et j'avais l'impression que les costumes n'avaient absolument pas changé entre House of the Dragon et Game of Thrones. Ce qui m'embête parce que je suis une grande amatrice de mode, etc. Donc voilà, ça me met comme forcément un biais, etc. dans le cerveau, mais il n'y a aucun univers dans lequel la mode n'a pas changé en plusieurs siècles. Ce n'est pas possible. Donc, moi, ça m'embêtait. Donc, résultat des courses, et je pense que je suis la seule parmi nous autour de la table là, ce soir à avoir acheté le bouquin qui fait approximativement 6,5 kg sur les costumes de Game of Thrones. Parce que j'avais absolument adoré le travail des costumiers et j'avais trouvé ça absolument extraordinaire. Et en fait, que vous me disiez ça fait partie des choses qui me motivent, en plus du fait que manifestement c'est très bien écrit, et l'histoire tient la route, etc. Cette histoire de costume, ça fait quand même partie des trucs qui me motivent à potentiellement, le jour où j'aurai le temps, c'est-à-dire potentiellement à la retraite, de regarder House of the Dragon. Quoi. Je sais pas non plus de quoi on parle. Le truc auquel on n'aura pas le droit vu qu'on est beaucoup trop jeune pour ça. Voilà, potentiellement, quand j'aurai le temps, je regarderai House of the Dragon parce que effectivement, c'est absolument pas l'idée que je m'en étais faite de toutes les.
Je savais qu'on allait arriver à tout. ton weak spot.
Ouais, non, bah, c'est clair, la mode, c'est bon.
Je crois qu'il y a moins de 150 ou 160 ans entre
oui.
le début.
D'accord, ok, très bien. Mais même là, je veux dire…
Qui en plus dure pendant, je crois, 20 ans, le temps que les enfants grandissent, etc.
Mais même là, vous regardez…
150 ans, quoi.
C'est pas 300.
Même si c'est… Enfin, 200. À la limite, ce soit 100, que ce soit ne serait-ce que 50, 100, 150, 200, 300, ça m'est égal. La mode, ça évolue. Voilà. Donc, moi, ça me choquait profondément de voir des costumes qui étaient strictement identiques. Bon, enfin, si vous me dites que c'est,
écoute,
que c'est,
je que pense c'est beau… Je n'aura pas trop voilà. d'évolution de la mode dans les costumes de la roue du temps, par exemple.
Non, mais on a dit qu'on n'en parlait pas.
C'est Shannara, le pire.
Ah, c'est Shannara, je n'ai pas vu.
Ah, quoique dans l'épée de vérité, rappelons que Richard n'avait pas de costume puisqu'il était tout le temps torse nu. Donc, comme ça, au moins, la mode était juste aux abdos. Mais…
Et voilà, je sais que c'est débile comme sujet, en fait, la mode dans un truc, enfin dans une histoire de fantasy, mais surtout à partir du moment où on se base sur un truc comme Game of Thrones, qui était, bon, après on pense ce qu'on veut des dernières saisons, mais j'ai vraiment énormément de respect pour le travail des costumiers de Game of Thrones. Et voilà, encore une fois, c'était quelque chose qui me perturbait profondément sur un truc qui était censé se passer plusieurs siècles avant. Je me suis dit, mais non, quoi, au secours.
Si ça peut te donner encore un élément de réponse, mais je crois que Gilo voulait aussi,
oui.
voulait aussi compléter.
Un truc très intelligent.
Alors, vas-y.
Je pensais que c'était peut-être un hommage de Martine à Tolkien, puisque on peut pas dire que les costumes évoluent beaucoup en Terre du Milieu non plus. Hein.
Donc, Et qu'est-ce que tu en sais ?
Ah si, ils sont passés de extraordinaire dans la trilogie de Peter Jackson à absolument nullissime dans The Rings of Power. Mais
on va en parler. Attendez. on est en train de dresser des ponts alors qu'on n'a pas fini de traverser.
On fait genre, on a un plan de podcast, en fait. C'est ça que tu es en train de
faire. Exactement. On avait un plan, mais en fait, c'est nous papillonnons. Non, ce que je voulais finir de dire, c'est qu'ils ont revu, tu sais, même le design du trône de fer, en fait. Le design du trône de fer qui n'avait pas plu à George Martin est beaucoup plus proche de la version de Mark Simonetti, qui est la version telle que Martin...
On n'y est pas encore, quand même.
Hein, pardon ?
On n'y est pas encore, mais on est
quand même deux steps supérieurs.
Oui. Un petit peu moins éloigné que celui de la version de Game of Thrones. D'accord.
Et on est vraiment plus sur un trône de fer plutôt que sur un fauteuil en fer, quoi. Enfin, un divan en fer, quoi. C'est un peu cette évolution-là. Il y a beaucoup de choses qui ont vraiment été, pensées dans cette série. Donc, voilà. À part, effectivement, les petits écueils que tu trouveras, le fameux épisode qui se passe dans un, effectivement, qui a été tourné deux jours. Et qu'ils ont mis un peu en mode nuit, qui fait un peu. C'est lequel cet épisode les visiteurs, la révolution, qui effectivement avait été tourné comme ça. Mon Dieu, j'ai fait un comparatif.
Je t'avoue, je ne l'ai pas vu.
Je ne l'ai pas vu. Je sais juste que les visiteurs, la révolution a été tournée comme ça deux jours et en gros, ils ont mis.
Oui, c'est ce qu'on dit, on ne l'a pas vu. Mais bon.
Voilà, ouais. je ne l'ai pas vu, je tiens.
Tu sais beaucoup de choses dessus, mais.
Bon. Oui, exactement.
Ah non, mais c'est fou le nombre de choses qu'on peut savoir sur une série sans l'avoir vue. Alors là, je suis la première à en témoigner.
Non, mais
c'est bien parce que d'après ce que tu as l'air de dire, vraiment, c'est... Alors, encore une fois, pardonnez-moi pour la comparaison. On a commencé par la comparaison avec Les Visiteurs. On va continuer par la comparaison avec Sonic, le film. voilà. Mais c'est au moins, vous voyez ce que je veux dire. Quand les fans ont vu la version live action, entre guillemets, Sonic, qui avait été prévu à la base par le studio, ils ont pété un câble. Et la première chose que le studio a faite, c'est dire « Écoutez, on vous a entendu, ça ne vous plaît pas, universellement, à 99,5%, on va corriger ce que vous nous avez dit, on va prendre ça en compte, etc. » Résultat des courses, Sonic 2, le film, a été quand même le film adapté d'un jeu vidéo qui a enregistré le plus de recettes de toute l'histoire du cinéma. C'est pas compliqué.
Prends ça, Pikachu.
Prends ça, Pikachu, exactement. Parce que le studio a eu la décence d'écouter les retours des fans. Et manifestement, Giggs, c'est ce que tu as l'air de dire, c'est que là, ils ont écouté les retours des critiques de Game of Thrones et ils se sont dit, on va les prendre en compte pour House of the Dragon. Ça ne sera toujours pas parfait, parce que objectivement, ça ne peut pas l'être, mais on a quand même pris en compte ce qui avait été dit et voilà quoi.
Ouais, c'est ça. T'as vraiment T'as vraiment cette impression que la série a cet aspect feedback avec son public et qu'elle lui répond. Ce qui va effectivement être, à mon avis, beaucoup plus difficile quand on va aborder Rings of Power, mais parce qu'il y a d'autres... parce que Prime est beaucoup plus jeune que HBO. HBO, il ne faut pas oublier que c'est le leader du câble et des séries de qualité depuis des années. Ouais. Donc, une certaine maturité dans l'exercice, dans l'expérience. Pour lancer déjà à l'époque Game of Thrones en 2011, il fallait quand même avoir des bollocks. Il faut quand même le rappeler. Mais 2011, c'était quand même encore une période où il y avait très peu, quasiment pas de séries vraiment de fantasy.
L'épée de vérité.
Il y avait l'épée
de vérité.
Effectivement. Non, mais on en était à ce niveau-là. On en était à ce niveau-là de séries de fantasy. Et en 2011, vous pouvez retrouver nos premiers.
Il y avait Termer en téléfilm.
Encore non, quoi.
La caverne de la rose d'or. Ah non.
La caverne de la rose d'or, voilà. On avait des séries de fantasy à se mettre sous la dent. Autant dire qu'il ne fallait pas avoir très faim. Donc, HBO a flairé le bon truc. En plus, il ne faut pas oublier qu'ils ont retoqué le premier épisode à l'époque qui ne leur avait pas plu. Ils ont viré la première interprète de Daenerys, Tamsin Merchant, pour ensuite recaster... Emilia Clarke. Donc voilà, donc il y a quand même tout ça qui a été fait. Ils n'ont pas hésité à prendre ces risques-là, à ce que le premier épisode, le pilote soit retourné, et jusqu'à ce que ça finisse par donner le
Ouais, mais Amazon, ils n'avaient pas re-shooté toute la saison. Quand
même. Bah non. Mais bon, je pense qu'on a plutôt bien parlé, à mon avis, de House of the Dragon. Mais... On va pouvoir passer au deuxième gros morceau, au deuxième plat de résistance, parce que dans ce podcast, il n'y a pas eu d'entrée, on passe directement, il y a deux plats.
Après, il y a potentiellement un dessert. Voilà.
La plat dessert.
Potentiellement un dessert, ouais. Mais ça va être, c'est un bon dessert. C'est pas un dessert à l'anglaise, quoi. C'est pas un pudding. Tu vois, c'est pas le truc lourd.
C'est viande, poisson et dessert.
Voilà. C'est viande, poisson, exactement. Bon, on est toutes et tous prêts à parler de Rings of Power.
Ah non, mais oui, là, oui, on n'est pas prêts, non. Non, on n'est pas prêts du tout.
Le Seigneur des Anneaux. Les anneaux de pouvoir. Il a longtemps été.
Le réveil de Sauron. Ah non, pas.
Le réveil de. Le retour de Sauron.
c'est pratiquement ça.
C'est pratiquement ça. Alors, la série, vous en avez probablement, chers auditeurs, entendu parler depuis au moins 2017, je pense. De mémoire, c'est 2017 sur
le podcast 65.
Eh bien, voilà.
On en a un qui l'a réécouté. Hein.
Ah, oui, oui.
L'annonce d'Amazon avait été faite le 4 novembre 2017 pour dire on a les droits. À ce moment-là, on ne connaît pas le contexte, on ne connaît pas le nombre de saisons, on ne sait pas quand ça va sortir. À l'époque, on pensait que ça sortirait en 2019 sur la jeunesse d'Aragorn.
Oui, exactement.
Et tout a changé.
Il y a eu cette rumeur.
C'est pas Aragorn.
Rendez-nous la jeunesse d'Aragorn, quoi, par pitié.
Même si on a des acteurs qui évoquent Aragorn et qui te font des gros clins d'œil en mode genre, t'aimes bien Aragorn ? Alors regarde, cet acteur-là, il ressemble un peu. Moi, j'étais hypé, en tout cas. Enfin, en tout cas, au moins pour ça.
Ça fait partie des critiques qu'il y a à faire sur la série.
Donc voilà, donc les anneaux de pouvoir... est finalement enfin arrivé, donc a été diffusé à partir du 2 septembre donc 2022, série de 8 épisodes. Chaque épisode fait au moins 3h27.
Environ une heure.
Non, ils font tous 1h15. C'est franchement, ça, ce sera le point de vue. On va en reparler de la longueur des épisodes, mais ils font quasiment tous 1h15.
Oui, oui. Mais parfois ça se sent, parfois un peu moins, mais
temps ça se sent, moi je dirais. Mais...
Voilà, c'est ça. Parfois ça a l'air d'être 1h15, parfois ça a l'air d'être 3h27.
Bah, après, si on attaque nos impressions globales, j'ai lancé 2-3 pics, etc. depuis le début du podcast, mais honnêtement, moi je fais partie, les gens qui suivent le forum s'en seront aperçus. Moi je fais partie des gens qui ont quand même plutôt apprécié le spectacle. Ce qui ne veut pas dire que je valide ou que toutes les décisions scénaristiques me conviennent ou me semblent justifiées. Parce qu'après, on en revient à la même chose. Hein. Dans une série, je pense que... Enfin, dans toute œuvre, d'ailleurs. Mais surtout dans une adaptation, tu as plusieurs types d'erreurs. Tu as, l'erreur par rapport à ton matériau de base. Où, là, si tu fais des erreurs de... parfois volontaire, hein, si tu n'as pas d'autre choix, hein, je sais pas, au niveau chronologique, ou etc., ou vision du personnage. Et puis après, tu as les erreurs où, quel que soit le support, même ce serait pas une adaptation, je veux dire, tu as des failles scénaristiques ou des facilités, etc. Bon, après, le pire, évidemment, c'est de mélanger les deux, c'est-à-dire une faille scénaristique basée sur une interprétation, on va dire...
erronée du voilà. Marié de base, ouais, n'en parlons pas.
Ce qui peut arriver aussi, même au meilleur. Mais là, en l'occurrence, faut aussi remettre en perspective les choses, puisque si je ne dis pas de bêtises, Amazon n'a pas les droits du Cimarion en tant que tel. Gros coup d'œil à Foradan pour vérifier que je ne dis pas de bêtises. Et forcément, si tu as uniquement le Seigneur des Agneaux... Alors, je ne l'ai jamais faite, il aura fallu attendre 2022 pour que je la fasse.
Il aura fallu attendre 2022, mais tu l'as fait.
Et en plein podcast, forcément.
Ouais.
Sinon, c'est drôle.
Non, mais ça fait 5 ans que je mange plus de viande, c'est peut-être pour ça, ça me rattrape. Et si tu as juste le Seigneur des Anneaux et les appendices qui évoquent effectivement ce qui peut aussi se passer dans le Silmarillion, mais qui ne sont pas le Silmarillion, hein, donc forcément, tu te retrouves à faire des choix d'interprétation. Moi, il y a des trucs qui m'ont vraiment paru très étranges, notamment la non-évocation d'un certain personnage lié à Galadriel. Voilà, en gros, on va spoiler, mais je parle de Celeborn.
La totale disparition de Celeborn.
Avant l'épisode 6, ouais, je crois.
Oui, mais c'était une fois pour dire il est mort ou en tout cas disparu.
Oui, voilà, c'est ça qui a fait disparu, ouais, donc voilà.
Oui, et donc pour la suite de la chronologie, ça ne vous pose pas de problème, le fait qu'il soit présent dans Le Seigneur des Anneaux de Jackson,
techniquement, un elfe étant immortel, même s'il est mort, il peut se réincarner.
Bon, après, vu son rôle dans le
Seigneur des Anneaux,
vu son rôle dans Le Seigneur des Anneaux, en tout cas les films où il était juste là pour dire « Mais oui, Gandalf !» On va dire que c'était un rôle un peu limité, quoi. Mais bon, après, ça, c'est non, pas la faute du personnage.
Je veux dire, la grosse différence, c'est que, enfin, soyons réalistes, c'est qu'on a supprimé Celeborn. Enfin, c'est l'impression que j'ai, encore une fois, hein, rappel, j'ai pas vu la série. On a totalement sucré Celeborn pour pouvoir faire une espèce de ship entre Galadriel et notre Sauron, quoi. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est la seule raison pour laquelle on a squeezé l'existence de Celeborn dans cette histoire. C'est même pas une question de droit. C'est pour faire du ship de base avec le beau gosse de l'histoire, qui n'est totalement pas Sauron. Hein,
le beau gosse.
Aragorn 2.0.
C'est marrant parce que dans toutes les vidéos que j'ai regardées, alors oui, mais les vidéos que j'ai regardées sont extrêmement orientées. Hein, je n'ai pas regardé une vidéo positive sur la série, hein, que les choses soient pas claires. Il l'appelle Discount Aragorn. Hein, donc c'est vraiment l'Aragorn de chez
Aragorn.
Alors oui, d'accord, il n'est pas désagréable à regarder. Mais,
Pour en revenir sur le point de détail, on sait que pour Brothers Aragorn, ils avaient un livre et Martin pour donner les ficelles sur lesquelles ils pouvaient avancer. Pour Rings of Power, on dit qu'ils ont le Seigneur des Anneaux et les appendices. Peter Jackson avait exactement la même chose. L'histoire d'Aragorn et d'Arwen, c'est les appendices. Ils ont le même matériau que Peter Jackson, mais ils veulent faire quelque chose de différent chronologiquement. Dès le début, vous vous dites, si on n'a pas le matériau, si on n'a pas les ingrédients pour faire la soupe, on change de recette. Ils ont voulu faire le deuxième âge. Et le deuxième âge, quand on n'a que le Seigneur des Anneaux et ses appendices, la scène d'ouverture, vous vous rappelez sur quoi ça commence?
Sur la
Valinor.
Oui.
Vous savez, à partir du Seigneur des Anneaux, qu'est-ce qu'on a comme ingrédient pour parler de Valinor? Une référence. Oui. La chanson de Bilbo sur ARND Le Marineur.
Vous trouverez peu Valinor de podcasts en français avec ce niveau de précision. Pardon.
C'est-à-dire qu'avec rien du tout, il crée le premier quart d'heure, la jeunesse de Galadriel à Valinor et deux arbres. Il n'y a pas assez d'éléments pour dire... Je ne suis pas sûr que les deux arbres soient cités dans le Seigneur des Anneaux. On parle de Finrod, il n'est pas dans l'arbre généalogique, il n'y a que ceux des Hobbits. Donc, dès le début, je ne sais pas comment ils ont négocié les droits pour tel personnage, telle scène, mais ils n'ont pas dans le texte. Donc, à partir du moment où ils jouent une première séquence qui raconte Morgoth et ainsi de suite, Garde du Beleriand, et on arrive au deuxième âge, puisqu'ils ont bricolé à partir d'éléments qui, techniquement, n'est pas dans le texte pur dont ils ont les droits, ils ont pu obtenir des droits privilégiés on ne sait pas ce qu'ils ont négocié parce que c'était 250 millions de dollars, je crois, les droits avant production.
C'est ça.
Pour ce tarif-là, peut-être qu'ils ont négocié des séquences hors légendaire, enfin hors du livre principal.
Oui, ouais, bah, de toute façon, effectivement, c'était 250 millions, plus le fait de s'engager sur 5 saisons. Il me semble qu'une des clauses, c'est qu'Amazon s'engage à produire 5 saisons, quoi qu'il arrive. Quoi. Ouais, enfin, et quel que soit l'accueil, justement, public.
Oui, ils sont basés sur le deuxième âge. Franchement, l'épisode 1 nous donne la trame de la saison 1. Galadriel veut se venger de Sauron et le pourchasser pendant des siècles s'il le faut.
Elle est vénère. Hein.
Elle est vénère.
Arrêtez
de la critiquer.
Gil-galad, le roi des Noldor. Vous avez rien à dire sur son costume?
Bah moi j'aurais plutôt dire qu'il a bien mangé à la cantine.
Avec ses lauriers dorés, façon César, dans Astérix.
Bah, j'allais plutôt te dire qu'il avait. Ah, il a le charisme d'une moule, cet acteur, c'est affreux.
Ah non, mais le casting des elfes, de façon générale, de ce que j'ai vu, est absolument...
Pourtant, c'est Abraham Lincoln, le chasseur de vampires.
Et absolument non, catastrophique.
Oui, bah, je crois. Hein.
C'est le Abraham Lincoln, chasseur de vampires, vous savez que je l'ai vu au cinéma, fun fact.
Après Les Visiteurs?
Je l'ai vu avec des membres d'Elbakine, que je ne citerai pas d'ailleurs. mais oui, moi, je... alors non pas après Les Visiteurs, avant, parce que je crois qu'il est sorti en 2012. Ouais, je dis pas de bêtises, il est sorti en 2012. Et c'est le genre de film, tu sais, que tu vas voir, tu sais ce que tu
en
vas voir.
En sachant que tu vas râler.
À la fin, tu es quand même déçu et tu sors en rigolant en disant, bon, heureusement que j'étais avec des gens sympas parce que voilà quoi. Mais, ouais. Mais tu sais que je m'en rappelle encore.
Tu t'en souviens pas pour le film, tu t'en souviens pour la compagnie.
Bah, je m'en souviens pour ce fameux fight de Abraham Lincoln qui saute sur des chevaux sauvages qui sont en plein galop, qui se bat sur les chevaux sauvages avec un vampire qui lui jette des chevaux sauvages à la tronche.
Non, mais alors, j'ai
je m'en rappelle aussi.
J'ai vu le film et je ne m'en souviens même pas. Donc, c'est dire
moi, je me rappelle que les effets spéciaux étaient déjà pourris.
En tout cas, il a interprété des personnages légendaires, quoi.
Bah oui, effectivement, ouais, Abraham Lincoln et donc
Gil-galad.
Alors justement, je connais sur le divulgachage épisode 1, Gil-galad estime que Galadriel a tellement pourchassé le mal qu'elle va finir par le faire revenir.
Oui.
Et du coup, elle l'exile à Valinor.
Ce qui veut dire
comme
retraite.
Si c'était de son pouvoir.
Ce qui veut dire retraite.
Galadriel, qui techniquement est un peu sa tante, est plus vieille que lui et de plus haute naissance, se retrouve dans un bateau à faire une sorte de pèlerinage vers Valinor et décide finalement de se jeter dans l'océan.
Se jeter à la flotte.
Oui.
Pour traverser tout l'océan à la nage. Et chemin faisant, elle trouve un frêle esquif avec 3-4 naufragés humains qui commencent par lui relever les cheveux pour voir son oreille et dire « Oh, une elfe, jetons-la à la mer. » C'est raciste, un humain. Arrive le Kraken. Du Kraken, il ne reste que 2 survivants. Bogos et Galadriel, et ils sont finalement récupérés par un navire qui va à Númenor.
Et là, l'ennui
avec un des seuls mecs charismatiques de.
Pourquoi, comment, qui et qu'est-ce que ça vient faire ici?
Alors, je précise que je suis moins attaché aux matériaux de.
Là, il n'y a pas de matériaux de base.
La comparaison entre les écrits de Tolkien et la série, parce que c'est assez nébuleux pour moi. Donc, si tu veux, moi, j'étais vraiment. C'est pas vraiment à ça que j'accordais de l'attention. Mais effectivement, ce qui choque dès l'épisode 1, c'est ce côté très relou de Galadriel qui a ce côté genre je veux buter Sauron. Et en fait, elle n'arrive pas à le trouver. Il y a des indices un peu partout, genre il est passé par là. Non, mais je suis sûr que Sauron est quelque part. Et
meuf,
tout le monde lui
dit. Mais grande, il est sous ton nez. C'est douloureusement
évident. Mais à l'épisode 1, il n'est pas sous son nez. Et
ok, deux.
Le problème, c'est que chez les elfes, ils n'arrêtent pas de parler juste pour lui dire ça, pour lui dire écoute, Galadriel. Franchement, t'as merdouillé, donc tu vas partir à la retraite. Et en gros, partir à la retraite au Valinor chez les elfes, ça veut en gros dire être effacé du game. Hein. C'est-à-dire que tu t'es aspiré dans une grande lumière et on ne te verra plus jamais. C'est la mort, mais chez les elfes, en fait. C'est la mort cool. Tu vois.
Ah, c'est l'éternité.
Voilà, c'est l'éternité. C'est bien dit. Donc ouais, donc le cet épisode 1, personnellement, moi, j'ai trouvé très chiant.
Ah ouais.
Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des points de vue différents. C'est que autant Gilo, qui a des goûts, on va dire, approximatifs, va beaucoup apprécier la partie avec les elfes, alors que j'ai des goûts relativement, on va dire,
dit le fan de Sanderson et des visiteurs.
Exactement. Et j'ai eu beaucoup plus de mal avec les elfes. Donc, ouais. Après, chez les elfes, c'est très beau. Ça, c'est au niveau des décors. On sent que c'est là où il y a eu la thune.
Les budgets éclairage.
Budget éclairage chez les elfes, là, c'est pas la fin de l'abondance. Hein. Ça, c'est clair.
Tu peux pas te perdre dans la forêt, hein, là, sinon, c'est, c'est impossible. Hein. Je sais pas comment ils dorment, les animaux. Mais...
Si vous cherchez une série vraiment, si vous n'aimez pas la dark fantasy, vous pouvez y aller sur les anneaux de pouvoir. Il n'y a pas de souci.
Ah, attends, il y a quelques passages assez sombres hein, quand même.
Oui, il y a des passages assez sombres, mais en tout cas, dès le départ, c'est quand même. C'est toujours assez lumineux. Et même quand tu vas chez les nains, la Casa de Doom, qui est une des plus grandes réussites de la série. Est une grotte où t'as envie de kiffer la vibe dans la grotte. C'est vraiment chouette. T'as envie de taper sur des trucs.
T'as envie d'être confiné, quoi, clairement.
Lumineux, t'as cette espèce de bleu brillant qui est hyper bleu lumineux, qui est hyper, hyper beau, quoi. Bref.
En fait, globalement, le problème, c'est qu'effectivement, ils ont été pris au piège de. Leur propre acquisition, en fait, puisqu'ils se retrouvent effectivement à devoir beaucoup broder. Et ce qui aboutit à des trucs comme le rôle du mithril.
On en parle de
non.
Les autocrites, bon, même pour les elfes.
Faut-il
voir eh bien, on va miser toutes nos chances là-dessus.
Mais, disons que, ouais, je suis d'accord.
C'est notre plan A et plan B en même temps.
Mais, disons qu'en fait, le problème, c'est qu'ils en parlent pendant des épisodes et des épisodes. Et quand à la fin. C'est pareil, je regardais ça avec madame qui avait beaucoup plus de mal à s'intéresser à cette série qu'à House of the Dragon d'ailleurs.
Elle n'aime pas les pieds velus
Le pied velu, moi je lui disais, quand elle me disait c'est quoi les pieds velus, je lui ai dit tu vois les hobbits, c'est
des proto-hobbits. Voilà, c'est
proto-hobbits.
Mais très sale.
Mais très sale, effectivement. Et très peu heureux.
Et sans jolie maison, voilà. Ça.
Exactement.
Non, mais pour le coup, encore une fois, la réaction de la fille qui ne l'a pas vue, mais de ce que j'ai entendu dire, c'est vraiment... Alors, faire une mauvaise adaptation d'une série, enfin, d'une œuvre littéraire, c'est totalement possible. Mais ça ne manque pas. Mais il est possible de faire une mauvaise adaptation d'une œuvre littéraire tout en faisant une excellente œuvre cinématographique ou télévisuelle. C'est-à-dire, je veux dire, manifestement, The Shining est une très, très mauvaise adaptation de l'œuvre d'origine, mais c'est un film culte, parce que c'est un excellent film. Jurassic Park n'est pas une bonne adaptation du bouquin, mais c'est un excellent film. Et à côté de ça, The Rings of Power, les Anneaux de Pouvoir, pardon, parce que oui, ça a été traduit, c'est non seulement une très mauvaise adaptation, mais en plus, c'est une très mauvaise série. C'est-à-dire que les acteurs sont quand même pas excellents. Ils ont quand même massacré certains personnages. J'ai beau adorer Charles Edwards en tant qu'acteur, qui pour moi est une des stars des premières saisons de The Crown, par exemple, dans le rôle de Martin Charteris. Là, en tant que Celebrimbor, le personnage de Celebrimbor est réduit à néant. Mais dans le genre du Benet de base, soi-disant, c'est le meilleur forgeron de tous les temps. Qui n'a manifestement jamais entendu parler du concept d'alliage. Il y a un problème dans cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire?
Le groupe s'est séparé il y a longtemps.
C'est-à-dire que...
Ne pas alliage, le...
Est-il drôle.
Si ce n'était pas lui, je l'aurais fait aussi.
Voilà. Je veux dire, Galadriel qui se balade avec un soi-disant humain qui est soi-disant mortellement blessé sur 600 km, j'ai fait mes petites recherches. C'est-à-dire qu'un cheval, ça parcourt dans des conditions parfaitement idéales et sans s'arrêter, 56 km par jour. C'est-à-dire elle se balade pendant 10 jours avec un soi-disant humain qui est mortellement blessé. Mais ça n'a aucun sens.
Je trouve cela un peu de mauvaise foi parce qu'il y a quand même... Si on cherche à chaque fois l'incohérence, on va en trouver absolument partout, et surtout dans des récits imaginaires. Donc moi, c'est pas ça qui m'a choqué, parce que j'aurais pu être plus choqué par les Numénoréens qui arrivent en 2 secondes en Terre du Sud. Non, vraiment, moi, je suis pas vraiment d'accord sur... je trouve que la série a quand même beaucoup de qualités. Elle est mixée avec beaucoup de défauts. Pour moi, c'est vraiment... j'attends de voir la suite. Mais Morphy de Clark, je trouve que c'est une actrice extrêmement charismatique. Par contre, effectivement, le problème, c'est que c'est pas un bon personnage. Par contre, je trouve que c'est une bonne actrice. Et elle fait un peu ce qu'elle peut avec son script, quelque part.
Elle fait ce qu'elle peut avec un très mauvais scénario.
Ce qui la rend insupportable, en fait, ce n'est pas son jeu, je trouve. C'est vraiment que...
Le personnage.
C'est la madame je sais tout. Je sais que Sauron, il va arriver. Je vous fais la leçon à toutes et tous. C'est moi qui a raison. J'arrive à Numénor, c'est moi qui a raison. Ah ouais, mais si tu dis que tu continues à avoir raison, tu vas aller en prison. Bah, mettez-moi en prison. On te met en prison. On la met en prison. Ah, mais c'est quand même elle qui a raison. Donc, on la sort de prison. Enfin, au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, elle a tellement tout le temps raison qu'elle ne se remet jamais en question. Mais c'est ça qui la rend insupportable. Oui, Gilo.
Non, en fait, au-delà de ce que tu dis par rapport à Galadriel, je pense qu'un des problèmes de la série, c'est que elle se prête très facilement, et bah, par la faute de certains choix, hein, évidemment, à un côté même en folie, où tu t'es retrouvé très vite avec des gens qui ont joué justement là-dessus, parce que bah, en fait, on aurait pu. Enfin, je trouve que c'est un peu facile de faire de l'audience ou de profiter parce qu'on est tous un peu attirés par ça, donc forcément oui. Moi aussi quand il y a un truc que j'aime pas trop, etc., ou de toute façon, bon, c'est toujours, pour peu que les gens aient de l'esprit, c'est drôle d'écouter des gens dire du mal de quelque chose, forcer le trait, etc. Après, je trouve que c'est un peu facile aussi de baser son, enfin de miser tout là-dessus pour ce qui est de faire une analyse de la série, parce que tu peux pas te contenter, effectivement. Le nombre de chevaux embarqués dans les bateaux, mais pouvait aussi faire sourire. Donc après, tu t'es retrouvé avec des mèmes où tu avais des chevaux qui étaient genre 150 mètres sous l'eau parce que la coque. Bateaux, ouais. Voilà. Sauf que, comme disait Merwin sur le forum, en fait, le nombre de chevaux embarqués, il était finalement assez logique. Sauf que c'est plus drôle de s'en moquer que justement de réfléchir 2 secondes et de s'apercevoir que si l'embarcation pouvait bien contenir tant de chevaux, il n'y a rien de si choquant, même si à côté de ça, il y a d'énormes soucis. Et en fait, le côté pompe, on va dire, de la série qui justement se prend quand même très au sérieux, l'aide pas non plus dans certaines situations.
Il y a vraiment ce problème de série qui... a vraiment ce côté je suis le Seigneur des Anneaux, et c'est un petit peu, elle se traîne ça sur ces 8 épisodes. C'est très bien incarné par Galadriel. Par contre, ça allait beaucoup moins sur, pour moi, ce qui est l'une des meilleures relations que j'ai vues dans une série d'amitié, et pourtant je suis assez peu sensible à ça, je suis peu sensible à l'amitié, je n'ai pas d'amis. Non, mais j'ai été extrêmement touché par la relation entre Durin, le nain, Foradan.
Attention, hein, quand même, sacrilège.
J'allais dire...
Elrond.
N'importe quoi, Elrond. Entre Elrond et Durin, donc l'amitié entre l'elfe et le nain, qui est, je trouve... vraiment, mais simplement quelques plans, quelques effets de jeu, montrés de manière hyper touchante, et Durin qui reproche en fait des choses à Legolas dans la tête.
Elrond.
Il reproche des choses à Elrond et qui lui dit, mais pourquoi t'es pas venu à mon mariage, etc. Et en fait, ils comprennent, tous les deux comprennent que c'est la notion d'immortalité et de longévité de vie des elfes qui a créé en fait cette séparation, et c'est hyper touchant parce que tu te rends compte de tout ça. Donc ils essayent de reconstruire un petit peu leur relation d'amitié, et moi j'ai trouvé que ça fonctionnait à fond sur moi. J'ai trouvé que c'est la meilleure relation de personnage pour moi qui soit, et une des meilleures que j'ai vues depuis très longtemps. Oui, Safran.
Alors effectivement, la relation, l'amitié entre Durin et Elrond, ça fait partie des trucs qui ont été soulignés comme très positifs dans la série, dans tout ce que j'ai pu voir, lire, etc. Donc ça, manifestement, la plupart des, des spectateurs ont l'air totalement d'accord avec toi. Mais je crois que ce qui choque profondément, ça a été le décalage, mais total, c'est-à-dire 180 degrés, entre ce que les showrunners ont pu déclarer d'un côté et ce qu'ils ont fait objectivement dans la série de l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, dire on voulait que la série reflète la réalité au niveau de toutes les critiques qu'il y a pu avoir au niveau de, soyons honnêtes, hein, de la couleur de peau de certains acteurs, on voulait que la série reflète la réalité. Oui, très bien, formidable, c'est génial, moi, on est d'accord, même si on peut discuter du fait que quand on regarde la fantasy, on a envie de voir la réalité reflétée. Et de l'autre côté, ignorer totalement des bases comme les lois de la physique. Je crois que c'est ça, en fait, qui a beaucoup plus choqué les gens qu'autre chose.
Alors, attends, parce que moi, j'ai arrêté la physique à partir de la seconde, donc... Et en bac ES, tu fais plus de physique.
Alors, on va dire... Bah, j'ai fait L, hein, donc j'ai envie de dire, tu as sans doute fait plus de physique que moi. Mais enfin, les lois de la réalité, même plus que de la physique, j'ai envie de te dire. Tu ne peux pas dire d'un côté, on veut refléter la réalité d'aujourd'hui, tout en ignorant totalement le fait que si tu te balades, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un humain qui est mortellement blessé pendant 15 jours, il va être mort, bizarrement. Le fait que si tu te prends une explosion d'un volcan dans la tronche qui se trouve à moins de 5 km, t'es mort.
Ah oui.
Alors, détail, pardon, hein, mais les mecs de Pompéi...
Surtout quand la pierre à côté de toi est en train de fondre.
Les mecs de Pompéi, ils étaient à 10 km du Vésuve. Ils sont tous morts. Tous. Ouais,
et dans Pompéi, avec l'acteur qui joue Jon Snow, eh ben,
exactement.
Pourtant, son cheval, il va à 100 km/h.
Encore d'excellentes références cinématographiques.
Encore d'excellentes références cinématographiques dans voilà. Ce podcast.
Et voilà,
ne perdez pas votre temps à l'écouter.
Je crois que c'est ça qui a le plus choqué les gens. C'est que tu essayes de prétendre d'un côté que tu suis la réalité et de l'autre, tu l'ignores totalement. Donc, la réalité, c'est vraiment quand ça t'arrange.
Pour revenir là-dessus, alors, un des événements qu'on a vu beaucoup dans... les posters, les publicités dans les bus, etc. C'est quand même l'épée brisée, l'épée magique, l'épée maudite, celle qui boit ton sang pour se reforger.
Attends, c'est pas celle de Elric, celle-là ?
Elle y ressemble. Et on découvre, de toute façon, ça divulgage, ça spoil, que cette épée magique, il y a quand même la bataille pour savoir qui va la posséder, y compris des cascades à cheval avec des ralentis, qu'il faut arrêter les ralentis sur les cascades à cheval. Une fois qu'on découvre qu'en fait, l'épée magique, ben, c'est pas celle qu'on croit avoir et qu'on s'est fait filouter par l'alcoolique du village, l'épée magique, c'est juste la clé pour provoquer l'éboulement du barrage qui va inonder le volcan et réveiller le volcan. Une pioche aurait fait pareil. Ça serait pas quoi d'avoir une épée magique ? On la plante dans le rocher, on fait s'écrouler un caillou, on effondre le barrage.
Déjà, c'est une paume.
Une pioche, trois orques, et on fait pareil. On a poursuivi l'épée magique pendant 5 épisodes pour rien.
Mais il fallait, mais Foradan, il fallait te rappeler le Seigneur des Anneaux de Jackson. Puisque manifestement, c'est tout ce qu'ils essayent de faire pendant toute la série. C'est te rappeler des trucs, de te faire des échos sur la série de Jackson qui sont totalement vidés de leur substance et qui n'en ont aucun intérêt.
Non, comme les affiches sur le tour du mal avec le Balrog qu'on voit 2 secondes et demie.
Bah voilà.
Ah ouais, oui, c'est vrai qu'il y a un
Vous
peu...
avez kiffé le Balrog dans la trilogie de Jackson ? Attendez, on l'a ou on ne l'a pas ? Je ne sais pas. Regardez la série pour le savoir.
Enfin, pour moi, ça pêche.
Mais il vient de se réveiller. Le temps
il vient de se réveiller. Donc bon, voilà. Je veux dire, c'est quand même compliqué.
Ah, mais ça posera un problème de chronologie s'il se réveille vraiment parce que...
tu crois que ça les arrête ?
Les nains sont censés être tranquilles pendant encore quelques temps. Balrog, c'est censé venir plus tard.
Attends, je te rappelle, spoil, que c'est quand même la série qui te crée les anneaux elfiques en premier.
Non, mais ça,
on peut en parler de ça aussi ?
Enfin, je sais. Et ça pose un problème pour ceux qui connaissent l'histoire, peut-être moins pour ceux qui lisent, enfin qui voient la série au fur et à mesure.
Ça m'a posé aucun problème.
La chronologie interne de la série se fait beaucoup de mal pour sa continuité personnelle.
Mais je reviens juste 2 secondes sur... vous m'avez fait sourire quand vous m'avez dit « Oui, elle se prend de la fumée de volcan là tout à l'heure et elle ne meurt pas. » C'est vrai que je reviens, mais... Pardon, excusez-moi, je m'étouffe en y repensant, mais...
Non, mais c'est la fumée.
L'épisode, effectivement. J'ai madame qui, on finit l'épisode et elle me fait, ah mais elle est morte, Galadriel.
Moi, je fais, qu'est-ce qu'il te dit? Elle se prend la fumée, la tronche, elle est morte. Et je dis, j'en sais rien. Moi, je savais qu'elle était morte. Ouais, j'en sais des trucs.
Madame Biggs est parfaitement logique. Hein,
elle m'a soutenu pendant une semaine qu'elle était morte, quoi. Donc, moi, j'en rigolais. Je disais, ah, bah, tiens, on va voir l'épisode où elle est morte, tu vois. Et sur le coup, sa science fait, ah, elle est pas morte. Je dis, non.
Bah non, mais tu t'es pris la nuit ardente dans la tronche, elle n'était pas morte? Bah non.
Non, mais le mur de pierre est en train de fondre, mais elle s'est à peine époussetée les cheveux.
C'est grande.
Et les autres humains, c'est pas beaucoup mieux.
Tu as les poumons qui fondent, que les choses soient très claires.
La fameuse armure en scénarium qui est.
Ah non, mais bah, c'est une blague, va.
Elle est l'épreuve d'à peu près tout.
Oui, mais les autres humains, c'est pareil.
Mais c'est ça. Et tu peux même pas, effectivement, tu peux même pas arguer que c'est un truc, ouais, mais c'est une elfe. Bah non, c'est-à-dire que les humains dans la même scène, ils sont pas morts.
Oh, y a quelques morts, mais bon, pas les personnages principaux.
Ah, parlons de ça, Isildur.
Ils devraient tous l'être.
Isildur, l'ancêtre d'Aragorn.
Oui.
Non, mais
il
est mort, Foradan. Il est mort à la fin de la saison.
Oui.
Spoiler.
Le problème, c'est pas tant ces scènes-là, c'est les atermoiements à Numénor qui pour moi sont affreux. Et vraiment, tout ce que j'ai retenu vraiment dans mon cerveau, c'est bla 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 bla. Et au final, je n'ai toujours pas compris à quoi avait servi Aymeric Caron, parce que il y a Aymeric Caron dans la série.
Attends, c'est qui Aymeric Caron? C'est censé être une superstar ou je sais pas qui c'est en fait.
Comment est-ce qu'on pourrait te...
C'est quel personnage?
Oui, déjà, parce que moi, je cherche.
Déjà, d'une...
Alors, c'est... J'allais dire quelqu'un de la plèbe... Non, pas de la plèbe. C'est un orateur,
Quoi, Pharazôn?
Pharazôn?
Ah oui, Pharaon, ouais.
Oui, c'est pas la plèbe du tout, c'est...
Alors, quand tu sais qui est le personnage, normalement, dire que c'est un mec de la plèbe, bah bravo, franchement.
Écoutez, en tout cas, Pharazôn,
Moi, je le trouvais super classe en lisant le Silmarillion, mais pas. Mais
bah là, écoute, c'est un tribun politique. Il te retourne une foule de grévistes en leur disant que vous n'êtes pas le plombier polonais. Vous êtes mieux que les elfes.
Les elfes m'ont volé mon boulot. C'est lui, d'accord.
Il travaille mieux que nous. Mais vous êtes les vrais.
Je suis sur IMDb là et je trouve même pas son nom dans la distribution, quoi. Donc,
en fait, c'est ça le problème, c'est que la série n'arrive pas. Le peu de choses que la... Enfin, le peu de choses... Non, la série arrive à faire des choses bien, mais de manière inconstante. C'est-à-dire qu'elle arrive à avoir des bons personnages, mais tous les personnages ne sont pas bons. Loin de là, elle arrive à avoir des bonnes relations avec certains personnages, mais aussi des relations qui sont toutes pourries. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de la relation de Durin et d'Elrond, que je trouve vraiment super, qui devrait être enseignée dans les écoles d'écriture, rien que ça. Par contre, la relation entre Durin et son père... La relation entre Durin et son père, elle est pérave. Elle est vraiment nulle. Ce personnage du roi des nains, de toute façon, tous les rois sont nuls dans cette série. Le roi des nains, on l'a parlé de Gil-galad, qui pour moi est plutôt Gil-galad. C'est vraiment... En plus d'avoir été oublié par le charisme, ils ont vraiment un vrai problème parce qu'ils sont très monolithiques. Et le roi des nains, il est vraiment... Il dit non à tout.
Bon, en même temps, on doit le voir moins de 5 minutes en 8
et
épisodes.
Il fait son job, il protège son peuple.
Ouais, mais c'est 5 minutes de non. C'est 5 minutes où il dit non.
Oui, c'est pas lui qui m'a le plus marqué, je t'avoue, ni dans un sens, ni dans un autre, mais...
Ah, voilà, ouais, c'est bon.
Par contre, j'ai bien aimé l'étranger.
Ah, justement, j'ai un mot à dire sur l'étranger.
Ah, oui.
C'est peut-être une bonne idée.
Ah, l'étranger, oui. Ah, bah, bien sûr que c'est une bonne idée. Depuis le début, c'est une bonne idée.
C'est peut-être une bonne idée. Parce que Meteor Man...
J'ai vraiment apprécié.
Et même l'acteur,
moi, j'ai cru que c'était...
Il y a eu un débat dès le début de savoir si Gandalf ou Saruman pouvaient arriver avant le troisième âge.
Attention, la réponse, zone de spoil, c'est... Donc l'étranger, le doute, l'élément principal, en fait, ce qui l'introduit, lui, c'est qui sait, en fait.
Mais
Merwin disait que c'était pas important de le savoir. Moi, ça m'a tenu en haleine de savoir déjà qui était Sauron dans la série et qui était l'étranger. Et effectivement, l'étranger, il arrive et tu te dis, ah, est-ce que c'est Sauron? Est-ce que c'est Gandalf? Est-ce que c'est Saruman? Est-ce que c'est Frodon? Le mec a rien compris.
Vous n'avez pas la vidéo, mais je vous décris même pas l'expression de désespoir sur le visage de Foradan. Il est
transformé, tu vois. Mais c'est vrai qu'effectivement, il arrive, il est très grand, il ressemble à Gandalf. il ressemble à fond à Gandalf. Et mais il arrive dans une espèce d'œil, enfin, en météore, et on pourrait croire qu'il est dans une espèce de d'œil enflammé au départ. Et tu te poses la question. Tu te dis, ouais, qui c'est et tout. Et jusqu'au bout, la série te met le doute avec la fameuse Luciole. Ah, mais il a tué la Luciole. Alors, c'est pas Gandalf. Mais si, peut-être. Et ça, pour moi, ça a vraiment fonctionné à fond. Et sur la fin, quand on vient le chercher, quand les trois méchants viennent le chercher et qu'ils disent, vous êtes notre maître et tout, moi, j'y croyais vraiment. Et sur le coup, à la fin, du coup, j'ai mon petit cœur qui était un petit peu touché quand vraiment tu as ce retournement de situation où finalement bah, il s'avère qu'effectivement bah, c'est Mithrandir.
Ouais, sauf que manifestement, le gars, il sort quand même des répliques verbatim de Ian McKellen, dont Gandalf, dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Donc,
c'est quand même.
Ah bon, merci Foradan. C'est quand même pas du tout subtil de la part des showrunners. Le problème, c'est ça qu'on reproche aux showrunners. Encore une fois, pas moi, parce que je ne l'ai pas vu. C'est que les gens ont quand même une tendance à reprocher aux showrunners que tu fais des rappels permanents à la série de Peter Jackson parce qu'ils n'arrivent pas à s'en détacher. Ils n'arrivent vraiment pas à s'en détacher, en fait. Ils essayent de créer un suspense là où il n'y en a pas.
Non, mais
ou alors de façon totalement artificielle.
Si tu prends les répliques, moi je mets au défi 95% des spectateurs qui ont vu Le Seigneur des Anneaux une fois ou deux au cinéma ou à la télé de se souvenir que Gandalf dit ça dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin,
oui. Alors après, enlève fuyez pauvre fou et vous ne passerez pas et il n'y a plus rien.
C'est ça. Donc l'allusion,
c'est pour ça, justement, c'est pas de la référence utile.
C'est pas de la référence utile et elle est d'autant plus triste à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que vous avez même, enfin, moi je trouve ça extrêmement triste. C'est-à-dire,
moi je trouvais ça triste si justement il avait sorti il fuyait pauvre fou. Là pour le coup, ça aurait été un clin d'œil.
Mais on n'est pas capable de créer un personnage qui, alors déjà on n'est pas capable de dire son nom parce que manifestement, bah, très clairement on n'a pas le droit d'utiliser son nom, on n'a pas les droits. Donc voilà.
Non, mais ça faisait partie. Après, ça faisait.
Ils ont les droits du Seigneur des Anneaux, je vois pas comment ils peuvent très bien dire Gandalf.
Oui, normalement, ils devraient. Donc,
Ouais, bah écoutez, dans ces cas-là.
Moi, ça m'a paru totalement logique qu'ils le citent pas. Et vraiment, cette partie-là, en plus, a le mérite de rendre la partie avec les pieds velus quand même un peu plus intéressante. Parce que c'est pas non plus la partie la plus passionnante, même si je sais que Gilo a adoré.
Ouais, alors ça, s'ils avaient pu tout zapper, ça m'aurait bien arrangé. Mais... Encore, je crois qu'il y a un épisode, je me demande si c'est pas le 6 d'ailleurs, où on les voit pas du tout. Je pense que rien que pour ça, c'était pas mal.
Mais en même temps, niveau pieds velus, est-ce que les personnages pieds velus, c'est pas juste Madame Frodo et Madame Sam, quoi?
C'est pas ça, parce qu'ils ont vraiment tenté d'ajouter quelque chose.
Dans ta phrase quand même.
Non, mais un truc que vraiment je pense qu'on ne peut pas reprocher à la série, c'est qu'on peut lui reprocher ses défauts, on ne peut pas lui reprocher d'avoir travaillé sur son matériau et d'avoir tenté des choses. Tout n'est pas réussi, et je suis vraiment, ça j'en conviens complètement, mais il n'y a pas eu, si tu veux, de travail par-dessus la jambe. En fait, il n'y a pas eu de côté genre on s'en fout, de toute façon c'est ces trucs de geek et tout machin. Je ne trouve pas. On a Foradan qui me fait un V avec
moi. J'ai juste vu des extraits et je trouve que c'est fait par-dessus la jambe, quoi.
Trois prêtresses de Rune ont pour vocation de pourchasser l'homme de la météorite, pensent que c'est leur seigneur et maître, donc le tabasse, c'est logique. Oui.
Se rendre compte
que finalement, c'est on s'est trompé, c'est pas notre maître, c'est son pire ennemi.
Oui.
Oups, la boulette.
Mais tout le monde peut se tromper.
Ouais, tout le monde.
Celles-là, elles me font penser au Nazgûl de.
Tout le monde a droit à une deuxième chance.
Qui a 2,50 m de Frodo, il a qu'à tendre la griffe pour prendre l'anneau, et finalement, il fait demi-tour.
Non, mais ça, c'est la perspective.
Mais les forces du mal là-dessus, elles sont mauvaises.
En fait, il était à 30 mètres.
Ouais, eh ben, écoute, tout le monde a le droit à l'erreur. Et franchement, moi, je te dis encore une fois, ça a marché à fond. Elle tabasse Gandalf. Ensuite, elle lui dit, ouais, on vous a tabassé, mais c'est parce que vous êtes notre grand maître. Et voilà, en gros, fallait qu'on le fasse.
Ça vous semble logique, cette histoire? Enfin, je sais pas.
Quand t'es chez les méchants, je pense pas que t'es une bonne mutuelle, genre pour l'optique et tout. Donc, forcément... tu vas pas chez l'ophtalmo tous les 6 mois. Donc,
Bah, c'est à se demander non, comment Sauron a réussi à rassembler autant de minions derrière lui s'ils n'avaient pas une bonne mutuelle. Hein,
voilà, ces trois prêtresses, elles ont des pouvoirs pyrokinésie, mais par contre, elles ne sont pas très très douées pour savoir suivre une piste.
Bah oui, mais c'est quoi le rapport?
Là, je veux dire par là que les pouvoirs sont mal répartis.
Ah oui, ça là, bah, si tu veux. Mais
3 points de maîtrise du feu en moins et 3 points de détection du mal en plus, elles se seraient peut-être moins trompées de leur seigneur et maître, qu'il était à ce moment-là plutôt du côté de Numenor quand la météorite s'est écrasée.
Bah oui, mais elles ne connaissent pas la géographie.
Exactement, ah, oui. Puisqu'elles se trompent même avec les constellations. Le chapeau de l'ermite, la constellation pour retrouver Sauron, l'ermite. C'est logique, ça lui va bien. C'est pertinent. Mm-hmm. Mais ceci dit, j'étais en train de dire qu'ils n'ont pas fait exprès, je pense, mais de mettre Gandalf ou un Istar au second âge, c'est assez proche de ce que Tolkien avait décidé de faire lui-même.
Bon, bah ça, c'est une coïncidence. Hein.
Beaucoup de gens ont dit que, normalement, Gandalf et ses compères n'arrivent qu'au troisième âge, mais dans Nature de la Terre du Milieu, qui est paru l'an dernier, on a un extrait de ce que Tolkien voulait faire pour dire si les elfes sont menacés au premier âge, les Valar ne peuvent pas être là tout le temps, donc on va leur donner des gardiens. Parmi les gardiens, il y a Melian, celle qui sera la mère de Lucienne, Saruman, Gandalf et Radagast, plus 2 autres. Yeah. Donc Tolkien avait imaginé déjà que quand les elfes sont menacés, on envoie les Istari. Il serait donc pertinent de se dire, au deuxième âge, eh ben, on va envoyer encore un Istari, pourquoi pas Gandalf. Mais je crois qu'ils n'ont pas fait exprès,
bien sûr.
Oh bah, les gars, ils n'ont pas été capables de respecter les lois de la physique et ils n'ont pas été capables de coller la création des anneaux de pouvoir elfiques dans l'ordre où il fallait. Tu crois vraiment qu'ils l'ont fait exprès, cette histoire de...
Non, je pense qu'ils ont un coup de bol.
Non, mais sérieux, c'est un coup de... C'est un
coup de bol, c'est que c'est tellement subtil et compliqué à trouver qu'il n'y a pas grand monde qui a dû le voir, ça.
Bah, c'est ça.
Que veux-tu dire,
eux-mêmes, ils ne l'ont pas vu.
Moi, ce que je veux dire, c'est qu'autant ça me choque aussi certains problèmes de physique, autant je vois, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a 2 types d'erreurs, donc je vois pas le rapport entre, tu peux très bien faire une erreur de physique et connaître sur le bout des doigts, je sais pas, la généalogie de tel personnage, je vois pas en quoi ça serait forcément lié, quoi. Personnellement.
Je veux dire par là qu'ils arrivent à trouver des choses qui sont pertinentes, et de l'autre côté, ils nous font quelque chose qui l'est moins. On a une inconstance
parce qu'il
fait que c'est irrégulier d'un bout à l'autre.
Parce qu'il prévient le spectaculaire et le cliffhanger, ça se voit à chaque fin d'épisode. Donc, c'est mieux de laisser le suspense de la nuit ardente, même si tu sais très bien que les personnages seront là l'épisode d'après. Ça serait le dernier épisode de la saison encore.
Mais encore une fois, pardon d'être hyper terre-à-terre, mais il n'est pas censé avoir de suspense quand tu as une nuit ardente. T'es mort.
Oui.
Fin de la conversation.
Alors, il ne gère pas comme ça.
C'est fin de la conversation. Il n'y a même pas d'autre suite à avoir, en fait. On veut discuter avec les mecs qui sont morts à Pompéi. Mais encore une fois, je sais que oui, c'est censé être de la fantaisie, etc. Et je m'attarde à des détails. Mais enfin, je sais pas. Moi, ça me...
Peut-être que des gens se sont arrêtés à l'épisode 6 à cause de ça et on part regarder le 7 et 8. Hein, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Ah, comme ça, ils se sont épargnés les problèmes, les problèmes d'alliage de Celebrimbor et de Passauron.
Moi, je te vois que ça a quand même bien fonctionné parce qu'il me semble me rappeler, mais je pense que là, je vais me faire défoncer, mais allez-y, que Sauron arrive à manipuler pour la création de ses anneaux. Et moi, avec mon inculture à ce niveau-là, juste en sachant ça, je me suis dit, ouais, bah, c'est cohérent, moi, ça me va bien. Honnêtement, moi, ça m'allait bien. Et à partir du moment où on découvre qui est l'étranger, je me suis dit, attends, mais si lui, c'est pas Sauron, alors Sauron, c'est qui? Et sur le coup, je tilte, je me dis, attends, c'est Halbrand. Et sur le coup, ça a fonctionné à fond sur moi. Je me suis dit, oh, c'est génial. Enfin, c'est génial. Je me suis dit, c'est cool. Non, vraiment, ça a très bien fonctionné parce qu'il y a un enchaînement des événements qui a sa propre logique. Et effectivement, tu peux te dire, oui, Celebrimbor passe un peu pour un ego, genre, bah, attends, si jamais on fait cet alliage, etc. Bon, c'est dit d'une manière un peu plus...
La journée a été longue.
Oui, bah oui,
les derniers millénaires ont été longs, hein, t'as envie de dire, punaise.
C'est dit d'une autre manière. C'est dit d'une autre manière. Disons que je pense que ce serait mieux passé si ça avait carrément été. Ce passage avait duré un épisode entier ou deux. Parce que là, en fait, le problème, c'est, à mon sens, c'est que ça dure, c'est que c'est trop rapide. Donc, ah bah on oui, voit qu'elle est Wimbor qui fait. Bah, j'y arrive pas, c'est quand même grave la galère et tout. Et finalement, Albrand, tu fais peut-être qu'on pourrait mettre un peu de mithril comme ça et mélanger avec un peu d'huile d'olive.
Eureka!
Eureka! Et c'est vrai qu'on a Galadriel qui du coup, regarde Albrand en mode genre, mais qu'est-ce qu'il veut dire, lui? Et effectivement, sur le coup, ça va quand même très vite par rapport à ça. Avec plusieurs épisodes, je dis, par exemple, on squeeze Numenor et on s'attarde un peu plus sur la création des anneaux, peut-être que ça aurait été un peu plus logique. Voilà, c'est une supposition.
Pareil, le gars, il fait des commentaires sur « Oh là là, je sais pas qui c'est, du coup, vu qu'il est en train de proposer des bêtises, enfin des trucs absolument dingues sur, la, sur l'alliage des métaux, etc. » Non, mais à côté, le gars, elle s'est pas posé des questions sur le fait que sur son hérédité, en fait. Voilà, c'est-à-dire des elfes qui sont présents depuis des milliers d'années en Terre du Milieu, ils sont pas au courant qu'il y a plus d'héritier du roi des Southlands.
Ouais, mais c'est.
Sérieusement.
Les elfes, c'est des gros ennemis, ils pensent qu'à eux. C'est très nombriliste.
Ouais, il y a Fordham encore une qui. Fois, encore une fois,
c'est. 1000 ans, c'est rien pour un elfe.
Encore une fois, c'est vraiment, non, c'est vraiment parce que le scénario l'exigeait. Ça n'a aucune espèce de logique. Enfin bref.
Parlant de logique, il y a quand même une invention qui vraiment appartient au scénariste et qui pour le coup est plutôt réussie. Adar et les orques. Adar qui prétend j'ai tué Sauron. Sauron est mort. Et que quand on veut le faire parler, il explique que lui c'est un Morikwendi, l'un des premiers elfes qui sont devenus du coup l'un des premiers chefs des orques. Alors là encore, ils n'ont pas les droits hors du Seigneur des Anneaux et pourtant ils ont réussi à le sortir. Donc, ils arrivent à déborder du cadre des droits stricts quand ils le veulent. L'interprétation de l'acteur est excellente. On voit bien que c'est lui le père des orques et que quand Sauron jouait à les découper pour faire de la magie noire, ça lui plaisait moyen.
Ça lui plaisait pas, ça lui faisait pas plaisir.
Au point que quand Galadriel lui fait la séance de l'interrogatoire, si toi, tu n'as pas peur qu'on te torture, que dirais-tu si on passait tes petits amis à la moulinette du soleil?
Ouais, pareil, ça, c'est censé être le personnage principal, ça?
Avant que Albrand lui dise « Galadriel, oh, on parle pas comme ça, un ennemi !» Quand en 5 minutes, ils ont été chacun à 2 mm de lui trancher la gorge. Non, ne le fais pas ça. Et la lame qui s'arrête miraculeusement. Dans cette scène-là, c'est Adar qui s'en sort le mieux. C'est les autres qui sont pas...
J'ai l'impression que depuis le premier épisode, de toute façon, Galadriel est au-delà de... La nana qui a toujours raison, etc. C'est une garce finie.
Ah, mais cet épisode-là,
elle est mauvaise.
On la montre
elle
de
est,
manière
elle
extrêmement
est,
déplaisante.
Elle est plus que déplaisante. Elle est mauvaise. Dans n'importe quel autre univers, ce serait elle la méchante. Et c'est ça mon problème avec cette interprétation du personnage. Dans n'importe quel autre univers, ce serait elle la méchante.
Et c'est peut-être pour ça que dans la séquence où Albrand lui propose une alliance entre elle et lui, on voit qu'en fait, Sauron lui propose un pacte.
Sauron lui propose un pacte. Et effectivement, tu peux te dire, d'après tout ce que tu as vu, que effectivement, la frontière est ténue entre est-ce que c'est une gentille ou une méchante quelque part, parce qu'effectivement, elle se comporte selon le point de vue où tu te places, tu n'as pas forcément le même point de vue sur ces actes. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon point par rapport à la série. Et je n'en démordrai pas. Moi, je regarderai, je suivrai la saison 2 avec attention, en espérant effectivement que les défauts soient gommés. Mais c'est un peu comme si, pour moi, de manière globale, c'est un peu comme si on avait un élève qui était globalement prometteur, mais avec pas mal de défauts, et à qui je rendais une copie qui me rendait une copie qui vaut aux alentours de 11, 11,5 ou 12 sur 20. Donc c'est qu'il y a c'est très loin d'être parfait, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont correctes, voire très correctes. Il y a beaucoup de choses à relever et à changer pour que ça s'améliore, bien évidemment, mais je pense qu'on a été très dur avec plus dur avec cette série que ça ne le devrait, à mon sens.
Tout à l'heure, on a parlé des fans qui se sont fait entendre et qui ont été entendues par les scénaristes, producteurs et les autres.
Non, ils ont pas
il
été
me semble bien que les showrunners ont été, comment dire,
faut pas oublier
forcément félicités.
Incités à potentiellement se retirer du projet.
Il ne faut pas oublier d'où on part. Hein. Je veux dire, l'année dernière, on avait quand même la roue du temps. Et la roue du temps, ça reste quand même une catastrophe.
On a réussi à en parler trois fois de la roue du temps, quand même.
Oui, mais vraiment, je veux dire, n'hésitez pas à donner, chers auditeurs, votre point de vue sur la roue du temps dans le forum, sur le forum netblacking.net, dans le topic approprié. Mais vraiment, pour moi, la roue du temps est une catastrophe à tous les points de vue. Et là, pour le coup, on parlait des costumes tout à l'heure dans Game of Thrones. Mais là, si vous voulez l'inverse de ce que sont des bons costumes, vous allez voir ça. Parce que ça, c'est vraiment... Mais dès les premières photos, on se disait qu'il y avait vraiment un problème. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier d'où on part. Effectivement, il y a peut-être que ça a step up trop vite entre la roue du temps et les anneaux de pouvoir. Il aurait peut-être fallu une ou deux séries, on va dire, intermédiaires pour que à la fois les showrunners et puis en fait bah, toute l'équipe de prod puissent gagner juste en XP, en fait, en expérience. Parce que...
Ouais, mais tu n'as personne en commun à part le fait que ce soit Amazon qui produise.
Tout mon raisonnement vient
après. Non, mais si, dans le sens où Amazon pourrait mieux encadrer ses projets. Ça, par contre, clairement, il peut-être qu'il lâche trop la bride aux créatifs dans le sens où, pour le coup, peut-être mieux encadrer ça. Mais après, c'est de la gestion de projet. C'est comme tu disais, HBO a beaucoup plus d'expérience là-dessus. Peut-être qu'avec les années, on ne reverra pas certaines erreurs.
Pense et a priori, en tout cas avec le budget, tu peux quand même y aller un petit peu, je pense, à marche forcée, même si ils auront toujours le HBO aura toujours le bénéfice de la maturité et Prime va essayer de rattraper HBO grâce en fait à sa puissance de feu financière. Je pense qu'ils peuvent arriver à corriger des choses de manière immédiate, mais certaines choses ce sera forcément plus compliqué. On verra. Vraiment, l'avenir le dira, je suis assez curieux. Oui, Safran.
Ah, ils ont eu 5 ans pour la saison 1. Là, ils pensent faire 1 an pour la saison 2.
Deux, je crois, non ? Non, il n'y a pas 2 ans ? Ils sont censés avoir 2 ans d'ici à la saison 2. Bon, après, si c'est le tournage...
Je pense pas qu'elle arrive. Je serais très étonné qu'elle arrive l'année prochaine.
Je serais étonné.
Non, elle n'est pas prévue pour 2024, arriver en 2023. Hein, elle est en 2024, hein, donc oui. Non, c'est pas 1 an. Mais moi, c'est ça qui me dérange dans cette histoire. C'est vraiment, tu as l'impression que Amazon a fait le concept du... On va leur balancer de l'argent à la figure, ça va être très beau, et personne verra les trous énormes dans la chaussée, en fait. Ça va être absolument magnifique, les décors seront sublimes, etc. On a dépensé 750 millions sans compter les droits, ouh, super. Résultat des courses, comme Geeks le disait très bien, HBO a réussi à faire vachement mieux avec beaucoup moins d'argent, avec peut-être des showrunners qui avaient un tout petit peu plus d'expérience derrière, parce que objectivement, les showrunners de Rings of, des Anneaux de Pouvoir, on fait quoi derrière ? Enfin, avant.
Ça tente. C'est là où on ne sera pas d'accord, c'est que pour moi, en fait, ils tentent. Ils ne réussissent pas forcément mais ils tentent des choses et il y a une vraie volonté artistique derrière. Il y a une vraie volonté artistique d'arriver à faire passer un message ou certaines choses de certaines manières. Certaines fois, c'est maladroit. Certaines fois, c'est bien fait. Et ça reste, effectivement, on pourrait en parler pendant des heures. Je pense que...
On fait des essais sur des petits projets.
C'est exactement ça.
Tu ne vas pas tester tes nouvelles chaussures sur la finale du marathon olympique.
Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, tu ne testes pas quelque chose sur une propriété intellectuelle comme le Seigneur des Anneaux.
Ouais, mais dans ce cas, c'est la faute d'Amazon, c'est pas la faute de...
Tu ne testes pas des gens qui ont zéro expérience à part des réécritures du dernier Star Wars sur Tolkien. C'est pas possible.
Star Wars, le 9 ?
Même, enfin, je sais plus lequel c'était, enfin bref. Avec le résultat, voilà. Avec le résultat qu'on sait. Pour moi, c'est...
Bien sûr qu'on aurait voulu que le Seigneur des Anneaux, ce soit HBO qui s'en charge, bien sûr. On a eu...
forcément, mais...
Oui,
mais
oui.
Même pas forcément HBO, ouais, ça m'est égal le studio qui est derrière.
Moi, j'aurais préféré TF1.
Diffusé sur la plateforme Salto.
Du moment que vous mettez des gens avec un peu d'expérience...
Avec Mimi, Mathieu et Gabriel.
Elle aurait eu plus d'expression faciale que Morphy de Clark. Hein. Je suis désolée, mais...
D'accord. Bon, je pense que, chers auditeurs, vous avez suivi un petit peu nos points de vue sur Rings of Power.
Et je vois surtout que les 5 saisons vont durer combien de temps?
Parce que c'est un an et demi, 2 ans entre chaque. 10-12 ans, s'ils le font, si ça arrive jusqu'à 5 saisons. Hein. Moi, j'y crois pas.
Je veux dire, Gil-galad, il va prendre combien d'années entre deux, lui?
Déjà que les elfes ont l'air d'être très clairement à la soixantaine, hein, je veux dire, les elfes, ils ont l'air d'avoir 60 ans. Hein. Oui, encore une fois, j'adore Charles Edwards. Il a 63 ans, le gars. Hein. Je suis désolée, mais voilà, c'est... Pardon.
Pour jouer un elfe,
moi, ça me gêne. Mais bon.
Si pas d'annulation, effectivement, il y en a pour effectivement toute la décennie 2020. C'est sûr, début 2020.
Moi, j'y crois pas. Très honnêtement, je ne crois pas que ça va durer jusqu'à 5 saisons.
Oui, exactement. Et donc, plein d'autres podcasts pour débriefer, bien entendu, dans les décennies à venir.
Mais je ne les regarderai toujours pas.
je continuerai à t'encourager à le faire.
Ah non, voilà, non.
Je pense qu'on a quand même essayé de dresser un peu le portrait de tout ça. Vous avez notre avis. N'hésitez pas à donner le vôtre hein, sur le forum de Delvaking.net dans la partie Rings of Power. Et on passe au dessert. Donc le dessert, c'est la troisième et dernière série qu'on va aborder dans ce podcast, à savoir celle qui nous a pris de court un petit peu comme un tacle par derrière qui finit par nous faire tomber dans l'herbe et finalement on finit par se dire que l'herbe est quand même bien douce et qu'on ne s'attendait pas à ce niveau de félicité, c'est Sandman.
C'est la série. Avec Tom Sturridge qui lui aussi n'a pas beaucoup d'expression, mais ça colle au perso.
Moi ça a été une vraie révélation. Et Sandman, donc série de Netflix cette fois, donc chaque plateforme
est représentée. Il manque Disney Plus, mais il y a Willow qui arrive.
Exactement, Willow arrive. Dites-nous dans le forum si vous voulez qu'on fasse un podcast sur Willow.
Je pense que ça sera la meilleure série de l'année.
À voir.
L'outsider.
Effectivement, l'outsider. Très bon outsider.
Je dirais rien, j'ai pas vu Sandman.
Donc, Sandman, série diffusée le 5 août 2022.
Un épisode bonus qui a été rajouté après coup.
Avec effectivement 10 épisodes.
En septembre.
11. Ouais, 11 épisodes. Avec Tom Sturridge dans le rôle de Morpheus. Qui est
l'incarnation, il a l'air sorti du comics de Neil Gaiman.
Il a l'air sorti vraiment, littéralement, du comics de Neil Gaiman. Donc, effectivement, on l'a pas dit, mais effectivement, le
impressionnant.
Ouais, très, 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 très impressionnant. Je pense que c'est une des meilleures prestations qui m'a été donnée de voir vraiment à la télévision, un peu tout confondu. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Sandman, c'est vraiment l'adaptation. Des romans graphiques de Neil Gaiman qui sont parus chez DC Comics entre 89 et 96. C'est vraiment le gros œuvre, on va dire, l'une des plus grandes œuvres de Neil Gaiman.
Je pense quasiment depuis 15 ans, je crois qu'il y a eu des news sur l'adaptation. D'abord en film, après justement effectivement en projet de série, puis de nouveau en film j'ai la tête de l'acteur mais je ne retrouve pas. Joseph Gordon-Levitt. Donc c'est lui qui aurait dû produire un temps l'adaptation mais au cinéma et incarner lui-même Morpheus, mais finalement ça s'est pas fait. Mais ça, c'était l'énième version dont on a déjà parlé. Gaiman lui aussi a beaucoup évoqué des versions qui certains scénarios qu'on lui avait proposés où c'était pas lui qui se chargeait du script et où c'était pas vraiment, ça collait pas vraiment avec son comics et sa vision. Et finalement, ouais, c'est Netflix qui s'en est chargé. J'avoue que j'ai eu très peur puisque là, à l'heure où vous nous écoutez, la saison 2 a été confirmée, mais je trouve qu'on a attendu quand même très très longtemps, même si Neil Gaiman a dit depuis que lui était au courant du renouvellement pour cette saison 2 depuis plusieurs semaines déjà. C'est vrai que le silence de Netflix autour de ça, alors que la série a vraiment est restée un certain temps dans le top 10 et même numéro 1 du top 10 Netflix monde et France aussi d'ailleurs à sa sortie. Donc c'est vrai que moi je commençais au départ j'étais très confiant puis je commençais presque à prendre peur. Donc je suis assez content que le renouvellement officiel soit tombé pour une saison 2 parce qu'il y a quand même encore plein d'histoires à adapter, plein de personnages à rencontrer. Au niveau des infinis. Et clairement, j'ai vraiment, si la série se poursuit sur cette lancée, j'ai vraiment hâte de voir ce que va nous proposer cette saison 2, parce que ouais, que ce soit au niveau de l'interprétation, du travail d'adaptation pur, etc. Même la musique, j'ai beaucoup aimé la bande originale. Ouais, non, je trouvais que c'était vraiment une série de qualité. Et le petit épisode bonus très sympathique en prime est venu couronner cette première saison pour moi. Donc j'en suis sorti vraiment vraiment ravi.
Ouais, et ben je suis. On aura été d'accord à 100%.
Ouais, sur ce podcast, c'est impressionnant.
C'est très très impressionnant. C'est relativement rare. Hein. Donc, Mais moi j'en attendais rien. Honnêtement, j'en attendais rien parce que je n'apprécie pas tout ce que j'ai lu de Gaiman. J'ai pas aimé American Gods, j'ai pas aimé Neverwhere. Enfin, moi, je suis vraiment, vraiment, c'est mon côté vieux con, hein, mais même Century Boys, j'ai pas apprécié. Bref, j'en ai quand même lu 3, je me suis quand même accroché. Vraiment pas mon truc. Et pourtant, en fait, je suis rentré dedans. En plus, j'avais madame à côté qui me disait, je veux pas voir. Alors, anecdote rigolote, je lui dis, mais tu voudrais pas qu'on vous regarde Sandman? Elle me dit, j'ai aucune intention de regarder ta putain de série Marvel, parce qu'en fait, elle voit Sandman, et elle se dit, mais en fait, c'est un mec qui est sur des dunes de sable et qui rend la justice sur les plages de Californie, tu vois. En gros, c'est ça. Et en fait, si tu veux, ça a bien duré 2-3 jours, elle me dit, non, je veux pas voir Sandman, c'est mort, le truc de super-héros, machin. Et en fait, quand elle commence à me décrire ce qu'elle pense, je dis, non, c'est pas ça du tout. Et elle pensait que le mec était sur sa, que le mec était vraiment, enfin, bon, voilà, que c'était une sorte de Spider-Man, mais à Los Angeles. Donc voilà, donc ça c'était pour ça m'a fait rire. Donc effectivement, le quand elle a vu la tonalité de la série, elle est rentrée dedans et moi aussi, c'est vrai que dès le premier épisode, petite précision, si vous aimez Game of Thrones, vous allez retrouver quelques acteurs bien connus, hein, Charles Dance, vous allez retrouver Gwendoline Christie également, donc Brienne de Tarth et Tywin Lannister, on en parlait tout à l'heure. Mais la performance de Tom Sturridge est vraiment, on l'a dit hein, tout à l'heure, mais j'insiste, hein, impressionnant, c'est vraiment très, 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 très impressionnant. L'histoire, si vous ne la connaissez pas, elle est vraiment très cool également. Elle apporte vraiment quelque chose d'extrêmement, de très, très différent à tout ce qu'on a l'habitude de voir. Et la construction des épisodes dont certains se suivent et certains non, a un côté vraiment. Arrive en fait à apporter constamment son lot de renouvellement. Donc je pensais que j'allais m'ennuyer, c'était pas le cas. Je pensais que ça allait me saouler très très vite, ça a pas été le cas. Vraiment, j'ai été extrêmement surpris en bien par cette série, et à chaque fois la série a aussi réussi à me scotcher dans ses propos et dans ce qu'elle dit, parce qu'elle arrive à aller assez loin dans sa réflexion sur l'humain, sur l'humanité et sur ses travers. Et voilà, c'est ce que je trouve qui fait cette force à la série. Est-ce qu'on a d'autres avis sur Sandman ?
Comme les deux précédentes, je l'ai dit depuis le début, hein, je ne l'ai pas vu. Mais en revanche, ça fait partie des séries où effectivement, contrairement aux deux premières, alors House of the Dragon, je m'étais dit, finalement, je ne veux pas la voir. Mais en fait, finalement, ça me dirait. Les Anneaux de Pouvoir, plus j'en entends parler, plus je me dis non. Sandman, je me dis... Enfin, dès le début, je me suis dit, celle-là, elle m'intéresse. J'ai juste pas eu le temps, en fait. Et j'en ai vraiment eu que des très, très bons échos. Et puis, effectivement, il y a plein d'acteurs que j'adore dans cette série. Oui. Commencer par Jenna Coleman, Ferdinand Kingsley, voilà, hashtag Team Victoria. Donc voilà, non, des acteurs que j'aime vraiment beaucoup. Et encore une fois, sans connaître le moindre truc au comic. Hein. Je n'ai jamais vu le comic. Là, c'est vraiment juste l'esthétique du truc. Et puis Gaiman, hein, bon, contrairement à Giggs, tu me mets le nom de Gaiman quelque part, je dis je signe où. Donc, ouais, ça fait partie des séries à regarder, effectivement.
Bah, écoute, on a dit beaucoup de bien, donc peut-être que je me suis tenté aussi, un jour que j'aurai du temps.
Même pour la recommande.
Il n'y a que 11 épisodes.
Et chaque épisode, à chaque fois, tu termines, tu fais ouais, j'ai pas perdu mon temps.
Ça qui non, puis il y a dit à la fin. Il y a des trucs vraiment chouettes qui ont été adaptés, qui n'ont pas été passés forcément sous... Parce que l'épisode avec Death, par exemple, donc sa sœur, on pourrait croire que ça n'a pas beaucoup d'importance par rapport à ce qui reste l'intrigue principale de la saison 1. Et en fait, c'est vraiment, je pense, un des meilleurs épisodes. Bah, parce qu'aussi, les numéros du comics correspondant étaient de très bons, bah, de très, très bonnes histoires. Ouais, non, en fait, y a pas, ça aurait pu être adapté différemment. T'aurais vraiment pu le recentrer sur, donc, la quête de Morpheus pour retrouver ses pouvoirs et arrêter le Corinthien, qui est donc un cauchemar qui s'est échappé de, et bah, du monde du rêve en son absence. Et qui est pas très gentil. Mais bon, qui obéit à sa nature. Mais moi non, je pense que là pour le coup, je valide absolument tous les choix d'adaptation qui ont été faits.
Et qui n'ont pas été les plus forcément qui auraient été les plus logiques.
Ouais, j'imagine. Mais même après, au niveau du casting, comme on l'a déjà dit aussi, il y a Peyton Oswald aussi qui joue Matthew le corbeau, qui est vraiment très drôle.
Oui. Oui.
Bon, il se force pas beaucoup. Hein, c'est il a la même voix qu'en vrai, aucun effort sur la voix. Mais bon, mais sa voix colle vraiment bien au personnage. Et je crois que c'est le premier qui a été, j'allais dire casté, mais c'est du mauvais français, qui a été engagé sur le projet par Gaiman. Vraiment, c'était une très bonne surprise. Je l'attendais quand même avec impatience parce que depuis le temps qu'on en parle. Quitte à faire des news, autant que ce soit sur un truc concret, plutôt que sur des projets d'adaptation qui justement ne voient jamais le jour. Donc, non, j'attends avec une certaine impatience la saison 2, qui, j'imagine, là aussi, devrait probablement être qu'en 2024, parce que bah, si le tournage est encore loin, enfin, pas encore commencé, bah, je pense qu'on va avoir une année 2023, finalement, assez... Ouais, il y aura la roue du temps, saison 2.
Donc, semaine, saison 2.
Oui, aussi.
Il y aura quelques petits trucs quand même.
Oui, non, mais oui.
On va avoir The Witcher saison 3.
Bien sûr.
La dernière avant
le lundi. La saison 3, c'est encore Cavill. Ah,
la dernière avec Henry Cavill. Hein,
avec Cavill, oui.
Ouais. Pas sans savoir, chers auditeurs, hein, que Henry Cavill sera remplacé à la saison 4 par non moins charismatique Liam Hemsworth.
Largement moins charismatique, hein, tout net, ouais.
Ouais, tout le charisme est parti chez son frère, donc forcément.
Ouais, malheureusement, il y a quand même effectivement. C'est une nouvelle qui a un peu bouleversé le.
Ouais, bah c'est un peu comme quand. Oh,
ça a pas bouleversé quand t'es un peu au courant de ce qui s'est passé derrière, ça a pas bouleversé.
C'est un peu comme quand les bandes annonces pour un nouveau jeu vidéo genre à l'E3 et puis finalement t'as le jeu vidéo quand il sort, c'est pas les mêmes graphismes.
what you expect, what you get. C'est malheureusement.
Mais ouais. Bon, on aura le temps d'en reparler de celui-là.
On aura le temps de reparler des séries à venir pour l'année 2023. C'est vrai que je trouve qu'on a quand même été plutôt bien servi en fantasy en 2022. Donc et encore une fois, on aura le temps d'en
redire. Il reste Willow.
Et il reste Willow
le
30 novembre, donc peut-être quand vous écouterez ce podcast que Willow sera sorti et on sera devant et voilà. On va affûter nos avis en tout cas. Je crois qu'on a fait le tour.
Tout à fait.
Merci en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'au bout, chers auditeurs. On vous rappelle, hein, si vous voulez nous soutenir, deux manières de le faire. Soit en nous laissant un don sur la plateforme Hello Asso, dont vous pouvez retrouver le lien sur la page d'accueil du site elbakin.net, soit en nous laissant 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur Spotify ou une autre plateforme.
Laissez-moi 5 étoiles aussi, pardon.
Le podcast, laissez à elbakin.net, ça nous fait chaud au cœur et en plus, ça nous fait du bien au référencement de podcast. Donc si vous l'appréciez,
pour nos points retraite,
à le dire, voilà. Merci tout le monde.
Bonne soirée.
Merci à vous.
Et bonne soirée à tous.
Et à toutes et à tous, rendez-vous au prochain podcast.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Enough, Reggie. À moi, l'aventurière qui doit sauver le monde.